18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu, 2 heures d'info avec du sport, le foot, les filles qui brillent, les garçons qui perdent. En tennis, peut-être le 12e sacre de Nadal à Roland-Garros. Les médias avec Mathieu Gallet, l'ex-PDG de Radio France, qui lance Magellan, une plateforme de podcast et des dossiers. Question, est-ce 1 million de véhicules diesel va ou vont être interdits à la circulation en Ile-de-France? La mesure va prendre effet à Paris dans 3 semaines, le 1er juillet. Sont dans le viseur les diesels immatriculés avant 2001 et les modèles essence d'avant 97. Mais cette décision est soumise à la discrétion des maires des 78 communes concernées. Avec nous, Laurent Russier, maire communiste de Saint-Denis, qui refuse de signer l'interdiction des vieux diesels dans sa commune. Pour la petite histoire, il roule en électrique. Dans une tribune, 100 personnes conçues par PMA, la procréation médicalement assistée, ont demandé que l'accès aux origines personnelles soit garanti à tous les enfants conçus par don de sperme. Autrement dit, la fin de l'anonymat pour les donneurs. Et si cela les faisait fuir? Et si cela créait des drames familiaux? Réponse avec Pauline Pachaud et les membres de l'association PM Anonyme à l'origine de cette pétition. Elle connaît son papa, mais pas son géniteur. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Vous pouvez bien sûr réagir à l'actu en tweetant, oui, hashtag Europe 1 sur Twitter. Il est 18h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et tout de suite, le journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Le roi Nadal en route pour un 12e sacre à Roland-Garros. En tout cas, l'Espagnol mène face à l'Autrichien Dominic Thiem pour l'instant 2-7-1. Dès le début de ce journal, nous serons à Roland-Garros. Des maires de droite qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron à 9 mois des municipales. Première marche des fiertés en banlieue. 1 millier de personnes dans les rues de Saint-Denis à 3 semaines de la Gay Pride à Paris. Et puis le grand retour sur scène de Mylène Farmer avec un show XXL. 6 ans que ses fans attendaient ça.
Europe 1.
Pour commencer ce journal, direction Roland-Garros.
Avec, je vous le disais, le roi Nadal qui rêve d'un 12e titre et qui affronte depuis 3 heures maintenant Corinne Boulou, l'Autrichien Dominic Thiem sur le central. Où en est-on ?
Raphaël Nadal en route pour écrire une nouvelle page de l'histoire de Roland-Garros. Il est en position très favorable désormais pour viser ce 12e titre fait unique dans l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem puisqu'il mène 2-7-1. Il a remporté la première manche 6-3 après un gros bras de fer avec Dominic Thiem en début de set. Et finalement, l'Autrichien s'incline 6-3 dans la première manche. Il remporte la deuxième un peu à la surprise pour égaliser un set partout. Rafa Nadal, alors là, dans le troisième set, est royal. Il ne laisse aucune chance à Dominic Thiem. Et l'Espagnol mène alors 2-7-1, 6-1 dans ce troisième set. Et dans ce quatrième, il a pris l'avantage sur son adversaire. Il mène 4-1, l'Espagnol. Autant vous dire qu'il est tout près d'un nouveau sacre ici à Roland-Garros.
Corinne Boulou, Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi et qu'on retrouvera bien sûr pour suivre l'évolution du match.
On vous en parlait hier dans ce 18-20 en recevant l'un des organisateurs. La première marche des fiertés en banlieue cet après-midi.
Près d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis en région parisienne 3 semaines avant la traditionnelle Gay Pride à Paris. Objectif, mettre l'accent sur la lutte contre l'homophobie en banlieue. Vous avez suivi le cortège Théo Manva. Les premières satisfactions pour les organisateurs, cette marche s'est déroulée dans un climat très serein.
Oui, elle s'est étirée dans les rues du centre de Saint-Denis avec ce mot d'ordre, on ne doit plus avoir peur. Cathy est transsexuelle, venue du Val d'Oise.
Je suis quelqu'un qui vit en banlieue, très concrètement, dans la vie de tous les jours. J'ai peur. Les regards qui montrent vraiment qu'on n'a pas lieu d'exister, on se sent automatiquement en insécurité. J'ai envie d'arrêter d'avoir peur. C'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui.
Mais a-t-on forcément plus de craintes lorsqu'on vit en banlieue qu'ailleurs? Pas forcément, disent beaucoup de ceux qui sont venus marcher aujourd'hui. Sarah, par exemple, habite à Paris.
Je me suis fait agresser. C'était pourtant dans le quartier LGBT dans Paris. On devrait pouvoir marcher et pas se faire casser la gueule. Qu'on soit en banlieue ou pas, il ne faut pas s'arrêter.
Et ils ont donc défilé pendant plus d'une heure, ces manifestants, certains avec des drapeaux, devant de nombreux passants, vous le disiez, dans un climat serein. Mais quand on s'écarte un peu du cortège et qu'on tend le micro, l'accueil n'est pas tout à fait unanime.
Ça me choque, franchement, de voir ça dehors comme ça. C'est des gays, ça me choque. J'ai 16 ans, j'ai pas envie de voir des gens comme ça dehors.
Des gens comme quoi?
Voilà quoi, un peu chelou.
Pour moi, c'est la honte en fait. Mais un homme, c'est. Je sais pas, normalement, si c'était moi, je me serais caché moi.
Ils auraient dû le faire ailleurs en fait.
Les associations LGBT vont rester installées ici sur le parvis de la cathédrale à Saint-Denis toute la soirée. Des animations, des concerts sont notamment prévus.
Théo Manval à Saint-Denis pour Europe 1.
C'est la tribune qui trouble un peu plus encore à droite en plein week-end de la Pentecôte.
Des maires, plus de 70 de droite donc, qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron en pleine crise chez les Républicains. Alors comment réagit-on chez les LR, Jean-Rémy Baudouin, alors que la semaine a déjà été marquée par le départ de Valérie Pécresse?
Eh bien, pour tout vous dire, Fabienne, ils ne sont pas nombreux à droite à prendre la parole pour commenter ce qui s'apparente quand même à un mauvais coup porté à un parti déjà en lambeaux. Parmi les réactions, on notera Jean Leonetti, il dénonce les pressions exercées par Emmanuel Macron, s'interroge sur la stratégie de ses maires. Pourquoi soutenir celui qui les a méprisés, écrit le nouveau patron par intérim du parti Les Républicains. Plus globalement, il y a une posture à droite, celle de minimiser ses départs, à l'image de Nadine Morano. L'eurodéputé était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Vous appelez ça une fuite, j'appellerais ça plutôt une désertion. Moi, j'ai vu ces maires qui étaient déjà en retrait depuis un certain temps et qui, depuis 2017, après la chute de François Fillon, s'étaient quand même largement désengagés du parti.
Mais quand vous creusez un peu dans les coulisses à droite, vous ressentez le malaise, la sensation que les municipales risquent d'être un nouvel échec après les européennes et que le parti pourrait ne pas s'en remettre. Beaucoup de maires vont rejeter les étiquettes, surtout la nôtre, confie un cadre LR très inquiet avant de trancher. Notre présence dans les territoires, c'était pourtant tout ce qui nous restait.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Alors que les sauveteurs qui ont péri au large des Sables d'Olonne vont être décorés de la Légion d'honneur à titre posthume, une marche silencieuse en leur mémoire aura lieu demain matin aux Sables d'Olonne. Elle se terminera par un dépôt de fleurs devant le lieu du naufrage.
À suivre, vers un nouveau bras de fer entre Bruxelles et Londres, Boris Johnson, le favori pour remplacer Theresa May, n'est pas prêt à payer à n'importe quel prix la facture du Brexit.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est précisément 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Va-t-on vers un nouveau bras de fer entre Londres et Bruxelles à propos du Brexit?
En tout cas, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres donné favori pour remplacer Theresa May démissionnaire, n'est pas prêt à payer la facture à n'importe quel prix. Il le dit clairement aujourd'hui dans la presse anglaise, il faudra que les 27 acceptent de renégocier l'addition à 45 milliards d'euros. Anaïs Cordoba est la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Pour Boris Johnson, le champion anti-Europe du référendum de 2016, le Brexit est une bataille personnelle qu'il se doit de remporter. Cette première interview de campagne pour succéder à Theresa May est une longue menace adressée à Bruxelles. À la poubelle, l'accord conclu par Theresa May, il veut repartir de zéro et tout renégocier avec l'Union européenne. Il exige la signature d'un accord de libre-échange avant de régler les conditions du divorce, ce que les dirigeants européens ont toujours refusé à Theresa May. S'il ne change pas d'avis, alors Boris Johnson menace de ne pas payer la facture du Brexit et de quitter la table des négociations. « Nous quitterons l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord », promet-il aux Britanniques. Cette ligne dure séduit les militants de base du Parti conservateur qui départageront les deux finalistes, Boris Johnson et leur favori. Mais les députés britanniques, eux, majoritairement opposés à une sortie sans accord, le menacent déjà d'un vote de défiance.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1.
Tout à fait autre chose, le grand retour sur scène de Mylène Farmer.
6 ans que ses fans attendaient cela. Elle a pris ses quartiers depuis vendredi pour 9 concerts à la Défense Arena. Et c'est Jean-Jacques Héry qui a eu la chance d'assister hier soir à ce show XXL.
Après 6 années d'éclipse, c'est en équilibre sur un croissant de lune que l'on retrouve Mylène Farmer. L'astre descend du ciel pour une entrée sur scène féerique. Première chanson, Interstellaire. Accompagnée de 16 danseurs, la chanteuse rousse irradie sur scène. Chorégraphies impeccables, décors futuristes et costumes à l'unisson. Premier frisson du public avec pourvu qu'elle soit douce. Puis les tubes s'enchaînent et juste quand on commence à se dire que le show Farmer, impressionnant de mise en scène, s'avère un peu mécanique, l'émotion arrive. Drapée de blanc, l'artiste s'avance pour chanter « Ainsi soit-je ». Dans la fosse et les gradins, les portables sont brandis en mode torche. Au passage, la chanteuse récupère un bouquet de fleurs. La communion avec les fans est totale.
Elle a su créer l'ambiance et en fait, bah voilà, on rentre dedans dès les premières chansons et on quitte plus jusqu'à la fin. Ça donne des frissons.
Après 2 heures de prestations réussies, la chevelure rousse de Mylène Farmer finit par disparaître derrière un écran de fumée, laissant peut-être un tout petit regret, celui de n'avoir pas laissé la moindre place au hasard dans un spectacle total, parfois presque trop millimétré.
Jean-Jacques Herry, quand même sous le charme hier soir de Mylène Farmer à la Défense Arena.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Alors le temps, si j'ai bien compris, est encore instable demain et toujours bien pluvieux par endroits.
Tout à fait Philippe, pluvieux du nord de la vallée du Rhône à l'Alsace. Les orages qui sont déjà nombreux à l'heure qu'il est éclatent encore sur les Alpes mais pourraient déborder en pleine demain. À l'opposé des Pays de la Loire à la frontière belge, le ciel restera couvert aussi avec des averses toute la journée, pouvant être localement orageuses. Du sud-ouest au massif central jusqu'au Poitou, centre et Bourgogne, les nuages vont dominer toujours donnant des averses faibles plus fréquentes sur le relief. Et en bord de Méditerranée, tout de même le ciel qui est plus variable. Les minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés sur le nord-ouest, 10 à 14 ailleurs, 15 à 21 dans le sud-est. Les maximales sont en baisse encore avec 15 à 21 en général sur le pays et 22 à 29 en bord de Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec Simon Rubin. J'attends pas, on commence par du tennis, on file à Roland-Garros.
Roland-Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
La grande explication finale, messieurs, entre Rafael Nadal et Dominic Thiem. Et on arrive juste à temps, Corinne Boulou, pour la première balle de match, les deux balles de match qui arrivent pour Rafael Nadal, l'Espagnol.
Effectivement, il mène 2-7-1, 5 jeux 1. Il a fait double break dans cette quatrième manche et il mène 40-15. Il s'offre donc deux balles de match. Alors, on va suivre avec vous la première. Rafael Nadal qui utilise bien ses 25 secondes pour se préparer. Évidemment, tout le stade est en apnée là en attendant de voir s'il est capable de concrétiser cette première balle. Allez, au service. Non, il faudra une deuxième balle avec Dominic Thiem qui a tenté dans cette finale. Il fait mieux que l'année dernière puisque l'année dernière, rappelons-le, il s'était incliné en trois manches. Là, il a résisté le temps de 2-7 face à Rafael Nadal, mais l'Espagnol est vraiment unique. Allez, l'échange qui s'installe en coup droit, le revers de Nadal lifté, il est sorti. Et donc, une première balle de match sauvée sur une faute de l'Espagnol qui va avoir encore l'occasion à 40-30 d'aller chercher ce 12e titre. Il écrit l'histoire en direct. Rafael Nadal, 11 titres. C'était déjà incroyable. 10 titres, la décima, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était déjà face à Dominic Thiem, l'Autrichien. Bis repetita, on se demandait si l'Autrichien avait les armes pour aller résister face à Rafael Nadal. C'est compliqué, il a joué sa demi-finale en 2 jours. Rappelons-le, il était encore hier sur le terrain pour éliminer le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, en 5-7. Et donc, Dominic Thiem s'est un peu écroulé dans le 3e set, 6-1. Et alors là, ça y est, c'est fait. Rafael Nadal qui s'écroule sur le sol. Un 12e titre sur une faute en coup droit de Dominic Thiem qui n'en pouvait plus, saoulé par les coups de l'Espagnol. Et l'Espagnol qui va soulever pour une 12e fois ici à Roland-Garros la Coupe des Mousquetaires. Ce garçon est décidément incroyable. Il remporte le titre 6-3, 5-7, 6-1. Et 6-1 en 3 heures, 6-1, en 3 heures de match. Et vraiment, on a assisté à une accolade magnifique entre les deux joueurs. Mais vous l'entendez, Rafael Nadal, El Campeón ici à Roland-Garros.
Et la Campeona Corinne Boulou en direct pour le sacre de Rafael Nadal.
On passe au rugby en ce moment. Clermont et Lyon se battent pour le dernier ticket disponible pour la finale du top 14.
Demi-finale en cours du côté de Bordeaux. On rappelle qu'hier, Toulouse s'est qualifiée aux dépens de La Rochelle. Jean Berthelot, vous êtes sur place. Si ce n'est pas encore terminé, ça approche et c'est Clermont qui est devant.
Oui, encore 7 minutes à jouer ici à Bordeaux et ce sont les Clermontois en effet qui sont sur le point de s'imposer face aux Loups. Ils mènent 23-13. Les Lyonnais avaient pourtant bien débuté la partie en inscrivant un essai par Liam Gill à la 10e et puis une pénalité signée Viseski à la 20e. Ils ont donc d'abord dominé ces Clermontois, mais ils leur ont aussi donné l'opportunité de revenir dans le match en étant beaucoup trop indisciplinés. 8 pénalités à 1 lors de la seule première mi-temps. L'adresse de Greg Ledo a fait le reste avec 3 pénalités réussies sur 3 tentées. Avant un premier essai clermontois, la 31e signée Damien Penaud sur une touche jouée avec beaucoup de vivacité par les Auvergnats. Laidlow l'a transformé à la 53e. Clermont a pris le large grâce à Raka, encore sur une touche bien négociée. Et c'est encore transformé par Laidlow qui est à 6 sur 6 aujourd'hui sur ses coups de pied. Les Lyonnais ont été moins heureux, eux qui ont touché 3 fois les poteaux, les enfiler 7 points. Ils auront bien du mal à aller chercher cette finale maintenant. 23-13 donc en faveur des 26 même à 13 à l'instant en faveur des Clermontois face à Lyon. Il reste 6 minutes à jouer.
Jean Berthelot en direct.
Et puis on termine par du football, filles et la suite de la Coupe du Monde.
3 matchs aujourd'hui, la victoire surprise des Italiennes de Buzyn face à l'Australie. Pour le Brésil, c'est facile, 3-0 contre la Jamaïque. Et puis les Bleus sont du côté de Nice, elles préparent leur match de mercredi contre la Norvège. La milieu de terrain, Delphine Cascarino.
J'ai regardé la Norvège, en même temps j'ai jeté un œil aussi au match des garçons. Et ben oui, c'est une grosse équipe avec beaucoup de puissance. On l'a vu hier, elles ont gagné 3-0 contre une bonne équipe du Nigeria. On a vu que sur les côtés, ça allait très vite, notamment avec Hansen ou Reiten, la buteuse. Donc voilà, on ne les craint pas, parce que nous aussi, on a des qualités, mais c'est sûr qu'il va falloir faire attention à cette équipe pour éviter de passer à côté.
Avec Delphine Cascarino, l'ailière française, et puis en ce moment, Angleterre-Écosse qui démarre tout juste, les Anglaises, 3e du dernier mondial.
C'était le Journal des Sports. Merci beaucoup, Simon Rubin. À tout à l'heure. À suivre, faut-il interdire la circulation des vieux véhicules diesel pour lutter contre la pollution? C'est ce qui doit être appliqué dès le 1er juillet dans 79 communes du Grand Paris. Mais près de la moitié des maires concernés disent non à une écologie punitive. Ils ne signeront pas l'arrêté car ils ne veulent pas faire trinquer les plus pauvres. C'est le cas du maire communiste de Saint-Denis, Laurent Russier. Et pourtant, il roule, lui, en voiture électrique. Il s'expliquera en direct. Dans un instant, il est déjà dans notre studio.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Philippe Vandel, il est 18h17 et avec votre premier invité, on va parler politique.
Et je commence par une question, est-ce qu'un million de véhicules diesel vont ou va être interdits à la circulation en Ile-de-France dès le 1er juillet? C'est dans 3 semaines, c'est la conséquence d'une décision prise en novembre dernier, interdiction de rouler pour les véhicules classés critère 5, c'est-à-dire les diesels immatriculés avant 2001 et les modèles essence d'avant 97. Mais cette décision est soumise à la signature des maires des 78 communes concernées. Bonsoir Laurent Russier.
Bonsoir.
Vous êtes le maire communiste de Saint-Denis depuis 2016. 34 maires sur 78 communes concernées en Ile-de-France ont fait savoir qu'ils ne signeront pas cet arrêté qui rendrait cette mesure effective sur leur territoire. Vous également, vous refusez d'interdire les diesels de plus de 18 ans. Pour quelle raison ?
C'est pas que je refuse, parce qu'il y a une vraie urgence. Et je pense que l'ensemble des maires sont conscients de cette urgence. Les habitants nous le rappellent suffisamment. La seule chose, c'est que je demande un report. Je demande qu'on ait 2 ans, 2021, pour pouvoir vraiment mettre cette mesure en place avec les nécessaires obligations de justice sociale, si l'on veut que la mesure soit comprise et acceptée par le plus grand nombre.
Combien de véhicules sont concernés sur le territoire de votre commune, à votre connaissance ?
Sur Saint-Denis, dans les chiffres que l'on a, on a environ 67 000 véhicules immatriculés et ce représenterait environ 10% entre les non classés et les critères 5. Soit pas loin de 7000 véhicules, donc 7000 propriétaires.
Et alors, que vous disent ces 7000 propriétaires ? J'imagine que vous les avez croisés déjà.
Ah ben, c'est sûr que les réactions sont assez virulentes, parce qu'ils ne comprennent pas que l'on puisse tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, leur interdire la mobilité finalement. Quelques exemples pour être clair. Tout d'abord, on a forcément tous rencontré des personnes âgées qui disent « Mais moi, vous savez, ma voiture, c'est vrai qu'elle est vieille, mais je l'utilise que 3, 4, 5 ou 10 fois par mois. Ben, c'est souvent pour me déplacer ou rentrer tard le soir. Ben, cette personne, elle n'aura pas les moyens de passer à un véhicule hybride ou un véhicule beaucoup moins polluant. Et puis, c'est aussi l'artisan du marché. On a des plus grands marchés d'Île-de-France et qui, avec son camion frigorifique, certes un peu ancien, va tous les matins chercher sa marchandise à Rungis. Et pour lui, il est totalement impossible de mettre 40 000 euros, c'est ce que coûte un camion frigorifique qui permettrait de circuler encore pour les 10 prochaines années. Donc ça nécessite de l'accompagnement et de l'accompagnement pour qu'on ait un autre mode de circulation en Ile-de-France.
Alors justement, en autre mode, les élus verts et au sens large, les ennemis de la voiture, qui disent qu'il faut la remplacer par les transports en commun. Sur le terrain, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est jouable ? Ça se passe comment au niveau du RERB ? Je raconte ça pour tous les gens qui n'habitent pas autour de Paris et qui ne connaissent pas les conditions de circulation.
Bah oui, nous à Saint-Denis, on a la chance d'avoir un maillage en transport en commun important, mais où malheureusement on circule dans des conditions parfois pas très dignes. RERB, RERD, ligne 13, ce sont 3 des exemples majeurs où malheureusement dans les heures de pointe, c'est vraiment le calvaire pour pouvoir prendre ces transports en commun. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il faut que l'on se donne 2 ans, c'est 2 ans pour remettre à niveau ces transports en commun. La dynamique est lancée et puis c'est 2 ans pour qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble, toutes les collectivités, Si on considère que c'est un enjeu national, et moi je pense que c'est un enjeu national, la pollution atmosphérique, c'est 15 000 enfants, par exemple, qui ont des troubles d'asthme supplémentaires à cause de cette pollution atmosphérique. On est bien placé à Saint-Denis, entre l'autoroute 1, le périphérique, la 86. Mais donnons-nous le temps de vraiment réussir cette mesure. Sinon, ça va faire un flop, malheureusement, comme la taxe carbone. Et une fois de plus, la France prendra un retard qu'on ne peut plus se permettre.
Et vous-même, vous avez une voiture électrique ?
Moi-même, j'ai une voiture électrique, mais après, c'est pas ça la question. Je ne donne de leçons à personne, c'est pas le sujet. Mais c'est comment on arrive à accompagner, d'une part, à renvoyer beaucoup d'habitants sur les transports en commun, parce que je ne vois pas tellement quel est l'intérêt de remplacer que des voitures par d'autres voitures. Et puis, c'est comment on accompagne plus fortement ceux qui sont prêts à passer au transport en commun. Ça pose la question du coût du pass Navigo, et puis ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour avoir une voiture moins polluante.
Et souvent, suivant les horaires, le transport en commun sont complets.
Bondé, archi bondé. Et puis ça ne concerne pas que les habitants de Saint-Denis. Je donne un exemple, un habitant qui va habiter à 15 km de la gare de Villiers-le-Bel. Eh ben, en général, pour aller ne serait-ce qu'à la gare de Villiers-le-Bel, il est obligé de prendre sa voiture. J'ai pas envie qu'en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, avec l'autoroute A86 qui coupe la ville en deux, on ait en gros un parking à ciel ouvert au nord de la ville. Ça veut dire qu'il faut aussi travailler la question des parkings relais. Et pour ça, on a besoin et de la région, et de la métropole, des villes et des départements. Donc tout le monde doit se mettre autour de la table.
Alors vous dites, monsieur le maire, il faut prendre du temps. La mesure va prendre effet le 1er juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Mais les PV n'arriveront qu'en 2021, donc dans 2 ans. À l'exception notable de Paris, la capitale va verbaliser dès le 1er juillet. Alors attention, si vous circulez ou si vous comptez circuler dans Paris, la ville va interdire non seulement les critères 5, mais également les critères 4, c'est-à-dire les diesels d'avant 2005. Vous connaissez les prix de l'amende ?
Oh, je crois que ça doit être au-dessus de 130 euros.
Je vais vous le dire, ça va de 68 à 375 euros. Et donc ça veut dire que maintenant les gens ne pourront plus entrer dans Paris. Comment ça se passe quand vous parlez avec vos confrères de la mairie de Paris ?
Le problème, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de ces sujets avec nos confrères de la mairie de Paris.
Ah
c'est
bon ?
Une fois de plus, c'est une fois de plus un des sujets sur lesquels la maire de Paris est très volontariste. Et moi, quand on est volontariste sur ce sujet, je ne peux qu'applaudir. Mais on ne peut pas être volontariste seul dans son coin. C'est de la même manière que la réflexion sur la métamorphose du périphérique. Si on souhaite imaginer l'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le périphérique, ça veut dire que si on ne travaille pas ensemble, ils vont être sur la 86. Donc finalement, ils vont se reporter en banlieue. Donc travaillons main dans la main avec Paris. On a tous la pollution, elle ne s'arrête pas ni aux frontières du périphérique, ni aux frontières de la 86. Donc je suis intimement persuadé qu'on est capable de faire de belles choses en la matière et les habitants attendent cela. Mais vous voyez bien, quand vous dites que ce ne sera pas verbalisé en banlieue...
Avant 2021.
Mais quel est finalement l'intérêt ? Autant qu'on prenne le temps de bien mettre cette mesure en place, qu'on continue à avancer sur le vélo.
Pour faire prendre conscience.
Oui, mais si.
Et pour que les gens commencent à vendre leur vieux diesel.
On verra, oui, mais là, c'est pas suffisant de dire vendre leur vieux diesel. C'est comment on accompagne. Enfin, à un moment ou à un autre, il faut que sur ces mesures-là, il y a quelque chose qui soit progressif, qu'on accompagne plus les plus fragiles. Et les plus fragiles, c'est pas uniquement ceux qui ont le moins de moyens, parce que ceux qui n'ont pas de moyens, en général, ils n'ont même pas de voiture. Et y compris, c'est d'ailleurs une vraie difficulté. Hein. En Seine-Saint-Denis, nous, on a la moitié des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc ça veut dire, en gros, c'est y compris les villes de l'Ouest où quasiment le taux de motorisation est beaucoup plus important, qui viennent polluer l'ensemble de la région Île-de-France. Enfin, moi, je parle d'égalité. Si on veut que ça marche, il faut l'égalité, la justice sociale. Sinon, on se reverra, j'en suis malheureusement prêt à prendre le pari, on se verra dans un an et demi avec de l'incompréhension. Donc, il n'est pas trop tard. 2021, ça me semble raisonnable. Et pour y aller tous ensemble, main dans la main, et qu'il n'y ait pas chaque collectivité qui prend finalement des décisions dans son coin.
Petite question technique, le périphérique est à Paris, juridiquement ? On considère que quand on est sur le périphérique, on est à Paris ou on est ailleurs dans une espèce de zone de non-droit ? Ou est-ce qu'on est dans la commune de banlieue la plus proche du périph ?
Mais pour moi, c'est là, en l'occurrence, quand on parle environnement et écologie, ces frontières n'ont pas beaucoup de sens.
Ah non, elle a un sens, parce que si on se prend une amende à Paris, c'est pas la même chose. C'est intéressant de savoir si quand on est sur le périph, on est à Paris.
Ah quand on est sur le périphérique, on est à Paris administrativement.
D'accord. Donc on peut se prendre une amende.
Oui, mais le périphérique est utilisé par beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'habitants que les Parisiens. Donc à un moment ou à un autre, il faut travailler ensemble.
Cela ne m'avait pas échappé. C'était justement pour cela que je posais cette question pour tous les gens qui n'habitent pas Paris, mais qui doivent circuler pour aller d'une commune à l'autre en passant par le périph. Patrick Ollier, le président Les Républicains de la métropole, se donne 2 ans pour convaincre les récalcitrants, dont vous faites partie. Les récalcitrants, ce sont les maires qui refusent de signer l'arrêté. 2 ans, ça va jusqu'en 2021. Et là, on voit bien l'enjeu. C'est que les élections municipales seront passées.
Mais justement, peut-être que finalement, ça évitera que chacun en fasse une petite tambouille électoraliste. Patrick Ollier se donne 2 ans. C'est exactement la proposition que j'ai faite à l'ensemble des maires de la métropole, à qui j'ai écrit dès la mise en place de la mesure, en disant « Donnons-nous ensemble 2 ans pour réussir... »
Les 2 ans, c'est... Alors, j'ai compris. Alors, donc, c'est pour que les maires ne se mettent pas à dos, parce que la plupart des maires sont candidats à leur réélection, ne se mettent pas à dos ni ceux qui roulent avec un vieux diesel, ni leurs administrés qui ont la fibre écolo.
Mais là, enfin, il faut qu'on arrête avec se dire qu'on se met à dos ou pas à dos les habitants. Enfin,
bah vous savez très très bien que c'est ça aussi.
Mais c'est pas, c'est beaucoup plus important que ça. Quand je vous dis qu'il y a des enfants qui souffrent d'asthme plus que de raisons, là où les pollutions atmosphériques sont importantes, qu'on a 5000 morts prématurées en Île-de-France par rapport à ces sujets, à un moment ou à un autre, ça peut pas être quelque chose qui est électoral.
Je vais dire les choses différemment. Bah, si un maire signe l'arrêté, il va se mettre à dos tous ceux qui roulent avec un vieux diesel. S'il ne signe pas l'arrêté, il va se mettre à dos tous les gens qui veulent plus d'écologie. En reportant grâce à une manœuvre dilatoire de 2 ans, on évite de fâcher tout le monde et on peut être réélu.
Mais non, 2 ans, c'est donner les moyens de réussir. Moi, je le redis, je me refuse d'être dans cette opposition entre le soi-disant pollueur qui aura un diesel et l'écolo magnifique qui ne roulerait pas en voiture. À un moment ou à un autre, il faut réussir à faire corps et à faire destin commun dans nos sociétés. C'est de ça dont souffre la France. Ce serait quand même dommage que ces sujets-là, on l'a bien vu dans le cadre des européennes, c'est des sujets sur lesquels les Français ne veulent plus être divisés, mais au contraire, aller de l'avant.
Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'intention de vous représenter en 2020 ?
Oui, j'ai déjà annoncé ma candidature et les sujets écologiques font forcément partie des sujets extrêmement importants pour tous nos habitants.
Est-ce que la crise des Gilets jaunes a pesé sur votre décision, c'est le cas, il l'a dit, du maire d'Alfortville, Michel Gershinovitch, qui justement a refusé de signer cet arrêté pour sa commune ?
Non, honnêtement non. Déjà parce que les Gilets jaunes n'ont pas été très organisés à Saint-Denis, même si beaucoup énormément soutiennent le mouvement. Le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a montré par contre, c'est qu'il fallait que les mesures, pour qu'elles soient... mise en œuvre et qu'elles avancent soient comprises. Et être compris, ce n'est pas uniquement décider on va mettre en place en juin, juillet. Pour l'instant, vous pouvez interroger beaucoup de personnes, la plupart ne le savent pas. Et puis surtout en disant mais ça ne sera pas verbalisé, donc allez, on met en place la mesure. Je crois vraiment qu'il y a des belles choses et des grandes choses à faire. On doit faire des grandes choses en termes d'environnement, mais je redis, c'est tous ensemble qu'on réussira. Et 2 ans, ça permet de le faire.
Merci beaucoup Laurent Roussier. Je rappelle que vous êtes le maire communiste de Saint-Denis.
Ouais.
À suivre, faut-il lever l'anonymat des donneurs de sperme ? C'est ce que réclament dans une tribune 100 personnes conçue par PMA avec le soutien de personnalités politiques et scientifiques. Pauline Pachaud est membre de l'association à l'origine de cette pétition. Elle ne sait pas qui est son père biologique, elle ne sait pas d'où vient la moitié de son patrimoine génétique. Elle connaît évidemment son papa et sa maman et elle lutte pour avoir le droit de savoir. Elle nous explique pourquoi et comment dans un instant sur Europe 1.
À 18h30, vous écoutez votre grand journal du soir, Philippe Vandel.
Avec le rappel des titres de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. C'était il y a quelques instants, porte d'Auteuil, à Paris. Raphaël Nadal levant le trophée à Roland-Garros, 12e sacre historique pour l'Espagnol qui a battu en finale l'Autrichien Dominic Thiem en 4-7. Plus d'un millier de personnes pour la première Gay Pride des quartiers. Une marche des fiertés a été organisée cet après-midi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Un défilé organisé par des étudiants pour dénoncer les discriminations contre les LGBT habitants dans les banlieues. La crise se poursuit chez les Républicains. 72 élus de droite et du centre apportent leur soutien à Emmanuel Macron. Une désertion et non une fuite, dénonce Nadine Morano sur Europe 1. Les tensions commerciales présentent une menace pour l'économie mondiale. C'est l'avertissement du G20 Finance au Japon. Une mise en garde en référence à la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis. Et puis la facture s'allonge à Montpellier après les dégradations d'hier lors de l'acte 30 des Gilets jaunes. Le maire de la ville estime à plus de 2 millions d'euros les dégâts causés dans sa ville depuis le début du mouvement.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure à 19h pour votre journal complet.
Europe 1. Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon, l'ambiance est lourde toujours dans le sud.
Absolument, les maximales qui font toujours le grand écart entre 16 en bord de Manche sous une fraîcheur automnale et 30 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. En ce lundi, il fera 28 à Marseille et Nîmes, 27 à Montpellier et Toulon, 26 à Ajaccio, température en baisse forcément, 24 à Perpignan, 23 à Metz, 22 à Lyon, 21 à Carcassonne et Besançon, 19 degrés à Paris, à Bordeaux et Saint-Étienne, 18 à Angoulême et Clermont-Ferrand, 17 à La Rochelle et 15 degrés à Évreux. Demain matin, les valeurs qui seront comprises entre 8 en Bretagne et 14 en plaine d'Alsace pour les régions au nord de la Loire et 10 à 18 pour le sud jusqu'à 22 en Corse. Tout cela sous un temps globalement instable dès la mi-journée. Grosses averses à l'est du Rhône et de la Saône, toujours avec un risque orageux en montagne. Seul le midi toulousain et le pourtour méditerranéen, c'est simple, restent à l'écart du risque d'averses, mais le ciel de toute façon y sera aussi nuageux.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Et bonne fin de week-end avec Europe 1, Philippe Vandel. Maintenant, on va parler de nos origines.
Mardi, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, 100 personnes conçues par PMA, la procréation médicalement assistée, ont demandé que l'accès aux origines personnelles soit garanti à tous les enfants conçus par un don de sperme, autrement dit, la fin de l'anonymat pour les donneurs. Bonsoir Pauline Pachaud.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes membre de l'association PM Anonyme, à l'origine de cette pétition, signée également par d'ex-ministres de tous bords, des scientifiques. Et vous tenez à être présenté à nos auditeurs avec votre nom de famille.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que j'ai rien à cacher. Je suis fière de mon nom de famille. C'est le nom de famille de mon papa, celui qui m'a désirée, qui m'aime et qui m'a élevée. Et aujourd'hui, on en parle librement, donc c'est important pour moi de ne pas être ici, sous le couvert de l'anonymat.
Vous êtes issu d'une famille, tout ce qu'il y a de normal, comme on dit, vous avez un frère, un père, une mère, sauf que vous ne le saviez pas, votre papa était stérile, votre mode de conception vous a très longtemps été caché par vos parents, et pourtant, quand vous étiez petite, vous aviez des doutes sur vos origines.
Oui.
C'est-à-dire ?
Ben, je le sentais en moi, en fait. J'avais le sentiment qu'il y avait une part de mystère autour de mes origines. J'ai souvent demandé à mes parents si j'étais adoptée ou si on m'avait changé à la naissance. C'est quelque chose d'assez viscéral, en fait.
Mais comment vous le sentiez ? Vous ne ressembliez pas à vos cousins ?
Alors effectivement, je ne ressemble pas aux cousins du côté de mon papa. Je ne ressemble pas beaucoup à ma maman et forcément pas à mon papa. Et c'est aussi ce que me renvoyaient les gens de l'extérieur en me demandant régulièrement « Mais t'es de quelle origine, toi ? T'es l'air asiatique, suédoise ?»
Ben... Et vous ne saviez pas ? Et ben que non. Vous répondez à l'époque vos parents, qui eux, évidemment, savaient ?
Alors, ma mère souvent me montrait des photos d'elle enceinte. « Mais non, tu vois bien, je t'ai portée, c'est quand même moi ta mère, et puis j'en ai chié. » Donc arrête avec tes hallucinations, ben non. Y a rien.
Et votre père ?
J'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai l'impression que je lui posais pas vraiment la question à lui directement.
Quand et comment vos parents vous ont annoncé la vérité ? C'était votre maman ou votre papa ?
Ma maman.
À quelle occasion et vous aviez quel âge ? Ça s'est passé comment ?
Alors j'avais 18 ans. J'étais en pleine conduite accompagnée au volant. C'était un mercredi après-midi. J'allais à mon cours de danse. Et on venait de s'engueuler un petit peu avec mon père et ma mère. Et ma mère m'a... jeter comme ça un peu froidement, je pense sous le poids du secret qui durait depuis 18 ans. De toute façon, ton père, c'est pas ton père.
Comment vous avez réagi ?
Alors, le premier sentiment, ça a été un grand soulagement, finalement, qui est venu, puisque je me suis dit, ok, je suis pas folle, en fait. Depuis toutes ces années où je me pose des questions, il y avait bien une raison. Et ensuite, quand elle m'a expliqué, parce que ton père, c'est pas ton père, oui, mais attends, quand, comment, qui, quoi, explique. Quand elle m'a expliqué que j'étais issue d'un don de sperme, puisque mon père est stérile, alors là, je me suis dit tout de suite, ok, c'est qui ce donneur ? Elle m'a regardée ébahie. Non mais attends, tu comprends pas Pauline, c'est anonyme le donneur. Et là, j'ai eu un sentiment d'injustice hyper profond. Parce que finalement, j'avais le voile qui était levé sur un secret pour en avoir un nouveau.
Plus un mystère. Pour en savoir plus, là c'est plus récent, vous avez décidé de faire un test ADN aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors j'ai découvert plein de choses, puisqu'un test ADN, ça vous apprend deux différents niveaux. C'est un, l'estimation de vos origines, et deux, c'est des matchs. Alors c'est un peu comme Tinder, sauf que c'est sur les origines. C'est de savoir avec qui vous pouvez avoir de l'ADN en commun.
Et alors ?
Alors moi, à ce jour, je ne match avec personne, mais si ça se trouve, demain, il y a une personne dans le monde qui va recevoir ses résultats et qui aura un ancêtre commun avec mon donneur que je vais pouvoir retrouver. Peut-être vous, d'ailleurs, si vous faites un test ADN, vous le savez peut-être pas, mais peut-être que vous avez un oncle ou un cousin qui a donné et c'est mon donneur. Et on peut matcher. Et l'autre point, c'est l'estimation des origines. Et j'ai découvert que j'étais suédoise à 20%, ce qui est énorme.
En 1994, les premières lois de bioéthique ont stipulé une règle fondamentale. Aucune filiation ne peut être établie entre l'enfant et le donneur. Le législateur a pris cette décision dans le bien commun des enfants et des familles. Pourquoi voulez-vous changer ceci ?
Parce que finalement, je ne suis pas sûre que les enfants aient été entendus en 94. Et aujourd'hui, en fait, on est un peu finalement le retour sur expérience. Et on est des êtres humains et on a entre 30, 40 ans et on s'exprime. Et aujourd'hui, en fait, on prouve qu'il y a des limites à ce qui a été fait en 1994. Et on peut améliorer, en fait, sur un point qui est essentiel, c'est l'accès aux origines. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'OK, on est plein de gratitude pour nos parents et pour ce donneur qui a donné un jour. On a besoin de savoir qui il est pour savoir qui on est nous-mêmes.
Alors, il faut savoir que l'identité de chaque donneur est connue de l'institution médicale française qui garde tous les noms dans un coffre-fort. Mmh. Mais si la loi changeait, on va balancer tous les noms des donneurs de sperme ?
Non, on va faire ça avec bienveillance et intelligence. Le but, c'est que pour les enfants qui sont déjà conçus comme moi, ce qui a été proposé d'ailleurs dans le rapport de M. Touraine, le député, c'est qu'on puisse rappeler les donneurs qui ont déjà donné, leur expliquer l'évolution de la loi, leur expliquer pourquoi c'est important de savoir d'où on vient et leur proposer de lever l'anonymat.
Mais ils ont le droit de dire non.
Ils ont le droit de dire non. Mais ça, c'est pour les enfants déjà nés. Pour ceux à naître, donc l'évolution de la loi qu'on souhaite, le droit d'accès aux origines, c'est que les enfants conçus, à 18 ans, ils puissent s'adresser à une structure ad hoc et connaître l'identité de leur donneur. Donc, dans le futur, les donneurs donneront en ayant conscience qu'à 18 ans, leur progéniture pourront avoir accès à leur identité.
Alors justement, la fédération des sécos, c'est là où on conserve les ovocytes et le sperme. Cette fédération a fait une étude au niveau national auprès des donneurs. Entre 75 à 80% des candidats interrogés sont pour le maintien de l'anonymat. Donc ça risque de faire en sorte qu'il y ait moins de donneurs à l'avenir.
Alors ça, ce n'est absolument pas certain, puisqu'aujourd'hui, nous, on a un vrai retour d'expérience par rapport à l'international. On sait que la Suède, l'Australie, le Royaume-Uni, qui ont passé le droit d'accès aux origines depuis des années, 84 pour la Suède, eux ont vu un nombre de donneurs augmenter.
Oui, mais ce sont des pays anglo-saxons, ce ne sont pas une mentalité latine comme la nôtre.
Suffit de la changer. Et aujourd'hui, on sait qu'avec une meilleure communication, en expliquant aux gens pourquoi ils donnent, en faisant prendre conscience aux donneurs qu'il y a un véritable être humain qui est conçu grâce à ce don, c'est pas un don du sang.
Merci beaucoup Pauline Pachaud, membre de l'association PM Anonyme. Et si on veut en savoir plus, il y a un livre qui vient de sortir, il s'appelle « Je suis l'une d'entre elles ». C'est la première génération de personnes dont vous faites partie, conçue par PMA qui témoigne. C'est aux éditions de l'Harmattan. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous Philippe.
Europe 1.
À suivre, le podcast est-il l'avenir de la radio? C'est ce que pense l'ex-PDG de Radio France. Mathieu Gallet a lancé cette semaine Magellan, une plateforme de podcast, des replays radio, dont Europe 1, et des productions originales, en tout pas moins de 280 000 contenus audio à portée de main, un mélange de Netflix, Molotov et Spotify. C'est son créateur qui le dit et il nous en parle dans un instant sur Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Et maintenant, on ouvre notre page média. Philippe Vandel, il est 7h20.
Et si le podcast était l'avenir de la radio? Et si le podcast était l'avenir tout court? C'est ce que semble penser mon invité. Après Binge Audio, après Cybel, après Boxon qui a coulé, et avant Spotify qui va se lancer, voici Magellan et son créateur, l'ancien PDG de Radio France. Bonsoir Mathieu Gallet.
Bonsoir.
Vous êtes le créateur de Magellan, une plateforme de podcast qui s'est lancée cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau et surtout de différent? C'est quoi Magellan?
Magellan, M-A-J-E-L-A-N, comme on est à la radio, il faut que je le précise.
Oui.
Magellan, c'est d'abord une application qu'on télécharge sur son smartphone et qui va vous permettre de découvrir tous les contenus audio disponibles gratuitement.
Les podcasts.
Ce qu'on appelle des podcasts qui recouvrent en fait des réalités très différentes. Ça peut être des émissions de radio qu'on va écouter à la demande au moment où on veut les écouter. Ça peut être des créations originales qui sont faites par des studios indépendants ou des podcasteurs et qu'on retrouve sur des plateformes comme Magellan.
Vous avez résumé ça d'une formule, vous avez dit que c'est à la fois Netflix, Molotov et Spotify.
C'est ce qui nous a inspiré dans l'expérience pour l'utilisateur.
C'est-à-dire?
Parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, quand vous regardez des séries, ce que fait Netflix, ce que fait MyCanal aussi en France, il y a quand même des acteurs français qui font bien les choses, c'est une expérience qui est complètement révolutionnaire par rapport à ce qui existait il y a quelques années. C'est simple, c'est pratique. C'est fluide, c'est beau. Quand on regarde Spotify, Deezer, Apple Music, même chose. Et aujourd'hui, sur les contenus audio parlés, ce qu'on appelle les podcasts, on n'a absolument pas ce même niveau d'expérience utilisateur. Eh bien, nous, c'est ce qu'on a voulu créer avec Magellan.
Alors, sur Magellan, on va trouver, j'ai lu le dossier de presse, et lu les papiers, 280 000 contenus, soit 13 millions d'épisodes. D'où viennent tous ces sons?
Alors tout ça, c'est effectivement une offre internationale. C'est du multilingue. Les 285 000 programmes sont multilingues, puisque d'entrée, nous sommes une plateforme distribuée dans 50 pays. Donc c'est un lancement international. Ils viennent à la fois des replays de radio, des podcasts originaux. Ils viennent de tous les continents.
Alors, il y aura aussi des productions propres, ce qu'on appelle du podcast natif, c'est ça?
Voilà. Alors, il y a des production propre sur la partie gratuite, qui est 99,9% de l'offre de Magellan. Et puis à côté, on a Magellan Plus pour aller plus loin, qui sont nos productions faites dans nos studios ou celles que nous distribuons, parce qu'il y a des catalogues tiers qui souhaitent être distribués sur une offre payante comme la nôtre, qui est une offre payante à 4,99€ par mois, mais on permet aussi l'achat à l'acte. Donc on pourra acheter une série, si on veut par exemple qu'une série de petits contes pour les enfants qu'on fait écouter avant de s'endormir, on pourra l'acheter pour 1,99€.
Alors, vous avez repiqué notamment les podcasts des radios francophones, notamment Europe 1.
Notamment Europe 1, mais tous vos concurrents aussi.
Et vous nous avez demandé l'autorisation ou pas ?
Alors oui, on a des discussions avec toutes les radios. Il faut se dire qu'aujourd'hui, ces contenus, ils sont disponibles gratuitement une technologie qu'on appelle des flux RSS, qui sont des flux gratuits dans lesquels les producteurs mettent le son, mettent aussi les images, très important, et mettent toutes les métadonnées, c'est-à-dire en fait, tous les renseignements écrits. Tout ça, on n'y touche pas. Nous, en fait, on ne fait qu'agréger ces flux et on les rend disponibles via l'application Magellan à tous les auditeurs.
Alors, je vous pose la question de l'autorisation à Europe 1, parce que Radio France a fait savoir qu'il s'opposait, la radio d'État, à ce que vous diffusiez leur podcast. Où vous en êtes-vous sur ce dossier ?
On continue à discuter, parce que ça fait des mois en fait qu'on discute avec Radio France comme avec tout le monde. Moi, vraiment, ma position vis-à-vis de Radio France, c'est de dire ce que je demande, c'est vraiment une équité de traitement par rapport à toutes les plateformes internationales, notamment américaines, qui distribuent tous les contenus de Radio France sans toucher à leur flux. Évidemment, on respecte complètement cette question de la propriété. On n'y touche pas, on ne touche pas au visuel, on ne met pas de pub en plus, on n'en enlève pas, parce que j'ai certains qui ont eu le fantasme de dire en fait, ils vont rajouter de la pub pour gagner de l'argent, au contraire, ils vont retirer de la pub. Non, on ne touche pas du tout à ces flux. Ce que je demande juste, c'est qu'on soit traité de façon équitable.
Quel intérêt de créer Magellan alors qu'il existe déjà chez tous les gens, par exemple, qui ont un iPhone, une application gratuite podcast ?
Parce que ce qu'on a vu, justement, c'est que l'expérience aujourd'hui, elle est vraiment faible. Parce que personne...
Qu'est-ce que vous appelez l'expérience ?
C'est la découverte, vraiment. On découvre très difficilement, alors que nous, on crée des playlists thématiques sur des humeurs, sur des moments.
Comme Netflix.
Exactement.
À la fin d'une série, ils vous proposent des séries en connaissant vos goûts, avec leur algorithme.
Comme Netflix, comme Spotify, le fait pour la musique. On crée notre propre moteur de recherche, qui est un moteur pensé en français. Donc là aussi, pour le référencement, c'est meilleur. On crée une soixantaine de catégories très précises, et vous les avez vues sur l'appli, qui vous permettent très facilement, vous cherchez cuisine, et vous allez tomber sur tous les podcasts qui parlent de cuisine. Si vous cliquez sur histoire, sur littérature, vous allez très facilement trouver tout le référencement de cette offre.
Alors, vous existez seulement depuis quelques jours, j'ai une petite critique à faire, parce que moi, j'ai testé, et j'ai cherché, avec le moteur de recherche, des interviews de Jean-Luc Godard. Il se trouve que je suis fan de Godard, j'aime sa voix, son intelligence. J'ai tapé Godard, j'ai quasiment rien trouvé.
Il date de quand, les interviews que vous cherchiez ?
Je ne sais pas, je voulais juste voir, il n'y avait quasiment rien. Alors j'ai tapé Jean-Luc Godard, et là l'algorithme m'a proposé des podcasts, mais avec plein d'autres Jean-Luc, genre Jean-Luc Mélenchon. Et donc j'ai pas réussi à trouver mon Godard, donc il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot, plus effectivement le moteur de recherche va être utilisé, plus il va être performant. Je vous l'ai dit, on a créé notre propre moteur de recherche. On aurait pu choisir un moteur américain, traduit en français. On a considéré que c'était vraiment pas... Bon, donc effectivement, il a besoin d'être amélioré, mais la question de la disponibilité dépend vraiment des producteurs. C'est-à-dire que si c'est une émission qui date d'il y a 3 ou 4 ans et que la chaîne de radio, par exemple, a décidé de ne plus la rendre disponible, vous ne la trouverez pas. En revanche, comme nous avons un partenariat avec l'INA, que nous distribuons les contenus de l'INA, vous pouvez retrouver dès aujourd'hui des programmes anciens. Il y a un très bel interview de Romain Gary. Je vous le conseille, du début des années 70.
Alors, j'ai parlé du financement, c'est un modèle gratuit payant, vous l'avez dit, à la manière de Spotify, on peut écouter gratuitement, on peut également s'abonner. Que vont entendre les abonnés ? J'ai vu qu'il y allait avoir des nouvelles de Maupassant, lues par Claire Chazal, Michel Drucker, Laurence Ferrari, Jean-Luc Reichmann.
Alors, sur la partie Magellan Plus, donc qui est la partie payante, effectivement, nous avons créé 7 programmes originaux pour le lancement, dont ces lectures de nouvelles de Maupassant par des stars de la télé. Notre ambition, c'est pas celle d'être une plateforme de podcast, c'est une plateforme de l'audio parlé.
Je vais vous dire ce qui m'a étonné, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est un animateur de jeux très populaire, on ne l'attend pas sur de la littérature.
Eh bien,
pourquoi ce choix ?
Justement, parce que notre idée, c'est vraiment avec Magellan de conquérir un public qui aujourd'hui n'écoute pas de podcast et lui faire découvrir la richesse de cette offre avec des incarnants comme Jean-Luc Reichmann, qui en plus a une voix extraordinaire. On va toucher un nouveau public.
Il y aura également une série unique de Franck Ferrand sur la jeunesse des grands personnages de l'histoire. Comment vous avez fait pour obtenir son concours alors qu'il est déjà sur Radio Classique, avec ses propres podcasts à lui ?
Ce qui lui a plu, c'est justement qu'on fait quelque chose de très différent de ce que font les radios.
Ça, j'ai bien compris. Mais comment vous avez obtenu l'accord de sa radio ?
Non, parce que lui, en fait, avait la possibilité de le faire. Et vraiment, ce qu'on a produit, enfin, vous l'avez écouté, on est beaucoup plus proche du livre audio augmenté où on recrée un univers sonore que d'une émission de radio. Et c'est vraiment pour ça qu'on pense que les gens sont prêts à payer. C'est pour avoir quelque chose que justement, ils ne trouvent pas dans l'univers du gratuit.
Et alors, pour les gens qui pensent que c'est un tout petit business, je vais donner deux chiffres. Aux États-Unis, un tiers des Américains écoutent des podcasts. Et la Chine, là-bas, le marché du podcast génère déjà 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Merci Mathieu Gallet d'avoir été avec nous ici sur Europe 1, dont les podcasts sont diffusés sur Magellan. Vous nous réappelez ?
M-A-J-E-L-A-N.
M-E-R-C-I. Europe 1. Dans un instant, les animateurs télé de plus de 60 ans ont-ils du souci à se faire ? Certains moins que d'autres, nous dira Renaud Revel. Et puis, dans sa chronique auto Tout roule, Pierre de Villeneuve nous dira que Mitsubishi innove et ça paye. A tout de suite.
Il est 18h50, la suite de notre page média, Philippe Bandel. On passe maintenant du son à l'image.
La chronique média de Renaud Revel. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe.
On va parler d'un sujet qui fâche, la limite d'âge. William Lémergie et Patrick Sébastien ont dû quitter brutalement France 2. Thierry Ardisson a mis un terme tout aussi brutalement à sa collaboration avec C8. Et certains animateurs et journalistes de plus de 60 ans ont du souci à se faire dans le PAF. Et là, Renaud, vous avez une exclusivité concernant Michel Drucker.
Oui, on l'espérait pas, on l'attendait pas, mais il vient tout juste de re-signer pour une nouvelle saison sur France 2. Sa 56e saison, dont 50 ans dans le service public. Michel Drucker, qui aura 78 ans en septembre et que j'ai rencontré pour le JDD, ne craint pas de faire la saison de trop. Il a rencontré donc ces dernières semaines les dirigeants de France Télé. Ouais. Il a négocié très très vite, ça s'est passé extrêmement vite et très rapidement. Il signe pour un an.
Pour un an, pas pour deux.
Non, rien, une seule année. Mais avant de signer, il a voulu vérifier l'état de sa valeur marchande à la bourse du PAF. Il a vu tout le monde hein, dans les dernières semaines. Les responsables d'M6, comme ceux de TF1, les industriels Martin Bouygues et Vincent Bolloré. C'est l'occasion pour lui de jeter quelques lignes hein, au cas où il aurait subi, vous l'avez dit, le sort d'un Lémergie ou d'un Sébastien.
Michel Drucker a fait la tournée des popotes, mais est-ce qu'il a sérieusement envisagé de quitter France 2 pour une autre chaîne ?
Oui, tout à fait. Et c'est avec Cyril Hanouna que les conversations ont été les plus poussées. Michel Drucker, qui confesse discuter très régulièrement avec l'animateur et producteur de C8, et qui entretient aussi d'excellents rapports avec Vincent Bolloré, on le sait, ne cache pas son désir aujourd'hui à la fois de changer de chaîne et de travailler avec Cyril Hanouna dans les années qui viennent. Ce ne sera pas en tout cas le cas cette année, mais en re-signant sur France 2, Michel Drucker a accepté de faire des économies, en tout cas de faire des grosses économies sur son contrat. C'est 20% de moins que l'année précédente, ce qui est compliqué pour Drucker qui a une petite PME de 10 personnes. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « je fais un sacrifice énorme ». D'ailleurs, Michel Drucker lui-même dit comprendre le bras d'honneur que vient de faire, souvenez-vous, pour les mêmes raisons financières, Thierry Ardisson, au dirigeant de C8, une chaîne dont il a claqué la porte. C'est ainsi que Drucker a demandé à Ardisson récemment s'il pouvait par ailleurs embaucher à la rentrée de septembre deux de ses humoristes, aujourd'hui sur le carreau, Alex Vizorek et Tom Villa, ce qui est chose faite.
Oh dis donc, ça aussi c'est une exclue.
Alors faire play avec Ardisson est délicat avec Delahousse, hein, vous souvenez-vous que Michel Drucker a également tenu à pacifier ses relations avec le journaliste de France 2, face auquel, rappelez-vous, il avait perdu l'an passé la tranche 19-20h le dimanche. Les deux hommes ont donc déjeuné ensemble et purgé le passé au cœur de l'hiver. Et Drucker, enfin, qui met la dernière main à un nouveau spectacle prévu pour janvier 2020, intitulé « De vous à moi », vient tout juste d'enregistrer les deux dernières émissions de la saison écoulée et il prépare déjà la suivante avec, pour premier invité, à la rentrée, Kylian Mbappé et Brigitte Macron.
Brigitte Macron, vraiment ?
Oui, on ne le sait pas, mais entre Michel Drucker et le couple Macron, les relations sont non seulement suivies, mais très bonnes. C'est ainsi que les 22 et 23 décembre dernier, l'animateur qui était à Abidjan pour un enregistrement rejoignait le locataire de l'Élysée au Tchad, à N'Djamena, à l'occasion des vœux aux soldats français. Les deux hommes avaient fait le voyage du retour assis, côte à côte, dans l'avion présidentiel. On était en pleine crise des gilets jaunes, et Emmanuel Macron lui avait demandé mais comment faites-vous pour durer ? Michel Drucker, avec beaucoup d'à-propos, avait répondu « 1. Comme vous, j'ai beaucoup travaillé. 2. Comme vous, également, j'ai eu de la chance. Et 3. Comme vous, je me suis autant inquiété dans le succès que dans l'attente du succès. » Michel Drucker confie aujourd'hui avoir beaucoup appris durant ce voyage. Bluffé, dit-il, par l'hygiène de vie d'Emmanuel Macron, qui dort peu, qui mange léger et travaille intensément. Comme qui ? Comme Michel Drucker, lequel Michel Drucker me disait, me confiait, à bientôt 80 ans, il s'est juré le plus sérieusement du monde de travailler comme Macron, beaucoup plus, et de dormir beaucoup moins.
Merci beaucoup Renaud Revel, à la semaine prochaine.
Merci Philippe.
Bonne fin de week-end sur la route ou ailleurs avec l'appli Europe 1 sur vos smartphones. Ce grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et avec un passionné de voiture.
Tout roule, c'est la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du Mitsubishi, qui est une marque confidentielle et qui, remarquez, ça n'empêche pas, qui innove.
Ouais, elle innove et ça paye. En avril de l'an dernier, Mitsu vendait 244 voitures.
Ah,
en
vous
avril.
Dites Mitsu.
On dit Mitsu, et ouais,
c'est un nom
c'est
de petit chat.
C'est une abréviation.
Chat.
Mitsu vendait 244 voitures, donc, et en avril de cette année, 540. Alors, vous allez me dire, c'est confidentiel, 500 voitures.
Ouais.
Mais Peugeot en fait 30 000, Renault pareil. Mais plus de 100% d'augmentation, plus 68% rien que sur le premier trimestre, c'est qu'il a dû se passer quelque chose.
Ah bah tiens, oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, c'est l'effet PHEV.
PHEV.
PHEV, du nom du SUV hybride qui fait l'actualité de la marque japonaise. Lancé en 2013, le Outlander PHEV a dépassé les 200 000 exemplaires vendus. Et la raison pour laquelle les ventes globales de la marque progressent, c'est parce que ce modèle a été restylé l'été dernier. Il a donc un style plus moderne, plus actuel, tout en gardant sa philosophie qui prend le contre-pied des usages du SUV.
Le contre-pied comment ?
Ben, la philosophie, jusqu'à il y a encore 5-6 ans, c'était de faire le maximum de kilomètres avec un plein. J'entends déjà certains crier de l'autre côté du poste. Ouais. Mais c'est encore le cas, cher monsieur. Mais avec l'avènement de la fameuse voiture électrique, que je suis bien obligé de vous le dire, va remplacer tous nos véhicules dans la deuxième partie de ce 21e siècle, eh bien, les usages bougent un peu. Avec ce Outlander PHEV, Mitsubishi propose une autonomie de 45 km en mode 100% électrique. Il n'y a pas un, mais deux moteurs électriques, en plus du moteur thermique, ce qui fait que même tout au fond de la jauge, ben, il reste toujours 2 ou 3% d'électrique pour avoir l'impulsion, pour pouvoir rouler à 2-3 km/h dans les embouteillages. Ça veut dire que ce modèle-là, contrairement à tous les hybrides rechargeables classiques, est fait pour vous dire, on roule tout d'abord en électrique. Les autres vous disant, on roule autant qu'on peut en électrique, en ville par exemple, et puis une fois sur la route, hop, ouais, on passe à l'essence. C'est donc une philosophie que j'allais dire inverse que Mitsubishi propose. Simplement, moi je l'ai essayé sur une longue période, arrivant dans un pays étranger, où la prise n'était pas la même. Sur le câble de recharge, il y a écrit en énorme qu'en aucun cas il faut utiliser un adaptateur, sinon c'est la maison qui brûle. Donc je n'ai pas fait l'expérience. Je l'ai utilisé en mode recharge à 100%, c'est-à-dire en mode essence, sauf dans les dénivelés où là effectivement c'est en montagne, la voiture descend donc elle récupère de l'énergie. Après le problème c'est qu'il faut remonter, donc on repère tout, c'est un peu comme au casino et c'est un peu énervant.
Donc ce n'est pas un bon système.
Alors oui et non. Oui parce que c'est dans la logique du futur d'aller de plus en plus vers l'électrique. Oui parce que vous avez toujours un moteur essence qui vous évite la panne sèche. Non, parce qu'à partir du fait que vous avez des prises partout, chez vous, au bureau, etc. Pourquoi ne pas rouler en électrique pur ? Les voitures, aujourd'hui, ont pour certaines 480-500 km d'autonomie. Les Hyundai Kona, les Tesla, etc. Et non, parce que ça reste une hybride critère 1 et non une électrique pure au critère 0, la vignette critère 0 qui a énormément d'avantages.
Alors vous êtes tellement dans la dialectique Pierre que j'ai toujours pas compris si vous l'aviez aimé ou non cette voiture.
Moi je l'ai pas trop aimé, mais je dois dire, et comme on l'a conduite à deux sur une longue période, ma femme l'a adoré. Elle a trouvé c'est très simple à conduire, très souple, très bien proportionné. C'est vrai, il y a beaucoup de place à l'intérieur et ce 4x4 n'est finalement pas immense. Donc il est facile à garer, donc il y a quand même des avantages à ce Outlander PHEV qui cartonne au niveau des ventes.
Merci Pierre de Villeneuve et salut à madame qui nous écoute, j'espère. La semaine prochaine, changement de décor.
Ah oui, je vous fais découvrir la toute nouvelle 911 Porsche.
Waouh.
Et c'est du lourd.
Ah bon ? Moi j'aurais préféré qu'elle soit un peu légère quand même.
C'est du lourd, je vous dis Philippe.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud, à tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci d'être avec nous si vous nous êtes fidèles. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Après le journal de Sophie Tussaud, le journal des sports et la météo, notre débat consacré au séisme politique qui a suivi les européennes avec les défections en cascade chez les Républicains mais également à la France insoumise. Il sera aussi question du triomphe du foot féminin. Exceptionnellement, ce sera à 19h15 car ensuite on va filer à Roland-Garros pour le bilan de la quinzaine avec nos envoyés spéciaux et notre consultant Cédric Pioline pour son fameux service Pioline.
Et continuez à nous faire part de vos commentaires en publiant sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h pile. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les Bleus ES trouvent leur public, fans ou curieux, ils étaient nombreux ce matin à Mandelieu, près de Nice, à assister à l'entraînement de l'équipe de France féminine de football. Vous l'avez vécu tout à l'heure sur Europe 1, la 12e victoire de Raphaël Nadal à Roland-Garros face à l'Autrichien Dominic Thiem en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Le résumé du match à suivre dans le journal des sports dans une dizaine de minutes. Le succès de la première marche des fiertés en banlieue pour lutter contre l'homophobie. Plus d'un millier de personnes a défilé dans les rues de Saint-Denis cet après-midi. Et puis également dans ce journal, la visite de l'un des plus grands voiliers du monde à l'occasion de l'Armada à Rouen.
Europe 1. De la curiosité et même de l'engouement ce matin au stade municipal de Mandelieu, près de Nice.
Après une arrivée discrète hier sur la Côte d'Azur, les Bleus se sont entraînés en public devant plus de 500 supporters. L'occasion de jauger leur nouvelle popularité. Julien Froment.
À l'ombre de la tribune, Jacqueline, la cinquantaine, l'avoue, elle ne connaît pas encore très bien cette équipe de France, mais elle y travaille.
Moi, je demande à mon mari, c'est qui celle-là, c'est qui celle-là. On est content, on est fiers. Puis moi, toutes mes copines qui habitent en haut de la France attendent mes photos sur Facebook. Prends-moi celle-là, prends-moi celle-là, prends-moi celle-là. J'ai dit, je connais personne, vous vous débrouillerez.
Il y a aussi des supporters avertis. Bruno, par exemple, est l'entraîneur de l'équipe senior de la section féminine de l'US Mandelieu. Il n'en loupe pas une miette.
Bah, c'est la référence. Et puis ça me permet à moi de m'améliorer au niveau du coaching, hein, de voir ce qu'ils font comme travail. Après, bon, c'est pas toujours facile de le mettre en œuvre avec des sections féminines qui sont un peu plus faibles techniquement.
Un public multiple, mais avec un point commun, l'amour pour l'équipe de France. Un amour qui s'est exprimé lors de la séance de dédicace avec la gardienne Pauline Perrault-Magnin.
On vous apprécie.
Ah, c'est gentil, merci.
Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir autant de monde. Merci d'être là. C'est très familial. Bah, voilà, on espère que vous allez être là tout au long de la compétition parce que franchement, vous nous poussez et vous nous portez. C'est gentil, bah, merci.
Et signe qui ne trompe pas, avant le match d'ouverture, il restait encore quelques billets pour France-Norvège. Des billets qui se sont arrachés depuis. Les Bleus joueront à nouveau à guichet fermé mercredi. Mandelieu, Julien Froment, Europe 1.
Merci beaucoup. Hier soir, ce sont les Bleus côté garçons qui ont joué pour les éliminatoires à l'Euro 2020. Et avant le début de la rencontre en Turquie, la Marseillaise a été sifflée par les supporters turcs. Inacceptable pour Emmanuel Macron, qui l'a fait d'ailleurs savoir à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football.
72 maires et élus locaux de droite et du centre apportent leur soutien à Emmanuel Macron.
Oui, dans une tribune publiée dans le JDD, ils affirment que pour obtenir la réussite de la France, il faut également la réussite du président et du gouvernement. Parmi les signataires, Yves Météraud, l'actuel maire de La Baule, qui accueille chaque année les universités d'été des Républicains. Une démarche qui fait réagir dans cette ville des Pays de la Loire. Pierre-Baptiste Vanzini.
Oui, effectivement, dans ce bastion de la droite, la nouvelle fait sensation et les réactions des électeurs de la ville sont clairement contrastées.
Ils sont députés, ils sont maires, c'est sous les Républicains. Vous croyez que les électeurs vont aller vers eux? Sachant qu'ils quittent les Républicains et pourraient aller voir Macron. Non, non.
On est un peu habitués en même temps. Il y en a d'autres qui font ça. Je pense qu'en politique, c'est comme nous. Hein. Des fois, on s'arrange un peu, quoi.
Moi, je préfère les voir partir vers République En Marche que le Front National, par exemple.
Et pour Franck Louvrier, ancien très proche de Nicolas Sarkozy, qui veut prendre la succession du maire actuel de La Baule, Yves Météraud, il n'y a aucun problème à aller vers le Rassemblement.
Les électeurs sont devenus des zappeurs. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que on est un esprit de rassemblement et d'ouverture. Et c'est sans doute le message qui a été adressé lors des élections européennes, c'est de dire « entendez-vous sur l'essentiel, entendez-vous sur le principal, ne vous battez pas dans des écuries inutiles. Choisir l'ouverture, c'est ni le reniement, ni la trahison, c'est seulement vouloir avoir la capacité de pouvoir rassembler. »
Et lui fait figure de précurseur. Il a fondé une association, La Baule Audacieuse, il y a plus d'un an, avec des gens de la société civile, du centre et de La République En Marche.
Pierre-Baptiste Vanzini à La Baule pour Europe 1. Et à la suite de cet appel des élus locaux dans le JDD à rejoindre Emmanuel Macron, Nadine Morano, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, a estimé qu'il s'agissait plus d'une désertion que d'une fuite. Valérie Pécresse, qui a claqué la porte du parti cette semaine, affirme pour sa part ne pas être d'accord avec cet appel. La présidente de la région Île-de-France assure rester de droite et dans l'opposition.
C'était aujourd'hui la première Gay Pride en banlieue.
Une marche des fiertés dans les rues de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une initiative prise par des étudiants pour lutter contre l'homophobie et la stigmatisation dans les quartiers. Elle a rassemblé plus d'un millier de personnes. Une participation satisfaisante pour une première, selon Yanis Kemes de l'association Saint-Denis Ville au Cœur.
De la fierté, tout simplement, de la fierté. Ça s'est super bien déroulé, il n'y a eu aucun accrochage et ça montre à quel point il y a de la stigmatisation et ils ne sont pas justifiés concernant la LGBTQI+phobie en banlieue populaire. Aujourd'hui, on est là pour dire que déjà on existe, les LGBTQI de banlieue populaire sont présents et il faut qu'ils soient visibles et qu'ils sont fiers aussi d'être banlieusards.
Quel message vous auriez pour ceux qui n'ont pas encore fait leur coming out, qui vivent en banlieue et qui auraient peur de le faire?
Maintenant, vous pouvez vous rattacher à une communauté, à un événement qui est porté par des gens qui vous comprennent, qui vous ressemblent et qui sont là pour vous accueillir, vous comprendre et vous écouter, et essayer de vous aider.
Yanis Kemes de l'association Saint-Denis Ville au Cœur répondait à Théo Manval pour Europe 1.
Europe 1. D'importantes dépenses reprochées à Carlos Ghosn cette semaine par un audit interne chez Renault. Vous entendrez la réaction de son avocat dans un instant. Et puis nous irons également à Rouen où se tient l'Armada.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Le coup de gueule des avocats de Carlos Ghosn.
Cette semaine, un audit interne a reproché à l'ancien PDG de Renault-Nissan 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Maître François Zimeray regrette que son client ne puisse pas livrer sa version. Il n'a pas été interrogé dans cette affaire.
Vous savez, il y a des droits qui sont valables pour tous, on les appelle les droits fondamentaux, et notamment le droit au procès équitable. C'est un procès dans lequel on peut se défendre. Comment se défendre lorsque des éléments d'accusation sont diffusés dans la presse sans que vous ayez été amené à vous expliquer sur ces faits qui vous sont reprochés? C'est ce à quoi on assiste dans l'affaire de Carlos Ghosn depuis le début, depuis son arrestation le 19 novembre. Est-ce que vous pouvez seulement imaginer qu'il n'a pas eu encore accès aux pièces du dossier? Voici maintenant que, là encore, par voie de presse, on apprend qu'un audit aurait été réalisé. Très bien, mais comment parler de dépenses inexpliquées lorsqu'on n'a pas cherché ces explications auprès de la seule personne qui pouvait en justifier ? Être privé de la possibilité de s'expliquer, ça c'est très choquant, particulièrement douloureux et difficile à vivre.
Maître François Zimeray, avocat de Carlos Ghosn.
Et maintenant on prend la direction de Rouen.
Où se tient jusqu'à dimanche prochain la 7e édition de l'Armada. Les plus grands voiliers du monde y ont jeté l'ancre, comme l'Hermione, invité d'honneur cette année. Visite guidée de l'un d'entre eux sur le navire école russe Mir avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Sur le pont de ce voilier, les trois mâts s'élancent dans le ciel à 49 mètres de hauteur. Les passionnés mitraillent de photos chaque détail. Jackie est au plus près du quotidien des marins.
On peut s'imaginer ce qui se passe en mer. Il y a des gens en train de plier la voile au bout du bateau. Ils sont à quai, mais bon, en pleine mer, j'imagine que ça doit être pire.
Les jeunes moussaillons d'une classe de CM1 venus de région parisienne sont aussi sous le charme de l'immense voilier, avec l'envie de prendre le large.
Ça donne envie de voyager. Les voiles sont énormes. C'est la hauteur du mât qui est hyper grand, qui m'impressionne. Toutes les cordes... Il y a des marins, mais ils ne parlaient pas beaucoup français.
Daniel est retraité de la marine, habitué de l'Armada. Il repose le pied sur un bateau et forcément, ça lui rappelle des souvenirs.
C'est formidable. Naviguer, c'est le bonheur. Puis il y a les rencontres. Pour un marin, c'est très important. On voit bien d'ailleurs, tous les marins sur les bateaux sont heureux de faire des photos avec les gens. Il est rare que des marins ne repartent pas avec des femmes d'ici, se marient avec.
Vous, non?
Non. Moi, c'était les Bretonnes, c'est pas pareil.
Le voyage se termine en effet par des échanges entre l'équipage et les visiteurs qui n'oublient pas de toucher le pompon des marins avant de quitter le bateau. Il paraît que ça porte bonheur. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Le temps de demain, on va dire, c'est mi-figue, mi-raisin.
Et oui, dans le nord-ouest, temps instable dès les premières heures du jour avec des averses qui se multiplient au fil de la journée. Dans l'est, le ciel qui devient rapidement menaçant avec des averses qui se renforcent aussi dans l'après-midi en prenant un caractère orageux très marqué, surtout si vous habitez sur le Grand Est et notamment sur les reliefs. Dans le sud-ouest, gris et en soirée, une tendance orageuse marquée des Pyrénées au Limousin, c'est un peu la tendance du jour. Près de la Méditerranée, un temps beaucoup plus sec mais pas toujours ensoleillé. Les températures de l'après-midi entre 14 à Aurillac ou encore Saint-Brieuc et 28 à Marseille et à Nîmes et le matin entre 8 à Brest et Nantes et 19 degrés par exemple sur l'île de Beauté ou encore 18 à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous, ce journal des sports, Simon Rubin, rebonsoir.
Rebonsoir.
Journal qui débute avec du tennis, Roland Garros tient son nouveau roi.
Roland
Roland-Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Et l'Espagnol Rafael Nadal qui a donc remporté ce soir son 12e tournoi de Roland-Garros. Il n'a pas de rival sur terre battue, en a-t-il jamais eu d'ailleurs. À Roland-Garros, en tout cas, Nadal confirme sa domination. Corinne Boulou, largement dominateur.
Eh bien, Rafael Nadal reste invincible sur sa terre battue parisienne. Ce trophée des mousquetaires, il continue de le serrer dans ses bras, comme lors de son premier titre en 2005, ici à Roland-Garros. Dominique Thiem a bien tenté de bousculer l'Espagnol dans les deux premiers sets, où nous avons assisté à un duel de toute beauté entre deux formidables punchers. Mais dans le troisième set, l'Autrichien ne tient plus la cadence, assommé par les coups de boutoir d'un Rafael Nadal qui n'hésite pas à venir au filet. Thiem s'écroule définitivement dans la quatrième manche, mené 5-1. Sur son service, Nadal conclut cette finale sur une dernière faute en coup droit de l'Autrichien de 25 ans. Le Mallorquin peut s'écrouler au sol et savourer à 33 ans ce 12e titre qui fait de lui un champion du monde unique et hors norme sur terre battue. Et donc, à la fin, c'est toujours Rafael qui gagne. Mais Dominique Thiem, c'est sûr, aura un jour sa chance.
Corinne Boulou depuis Roland-Garros. Et puis aujourd'hui, une victoire française quand même dans le tournoi en double féminin, celle de Kristina Mladenovic avec la Hongroise Timea Babos.
Et Mladenovic qui devient la numéro 1 mondiale en double. On va passer au rugby maintenant. Clermont qualifié pour la finale du top 14.
Et oui, à Bordeaux, les Clermontois ont fait plier Lyon sans trop de difficultés, en accélérant notamment en seconde période. Jean Berthelot, l'ASM, était largement au-dessus.
Oui, les Clermontois se sont imposés 33-13, donc de manière nette et sans bavure. Ils ont pourtant été mis en difficulté en début de match, puisque c'est le Loup qui a inscrit un premier essai par Liam Gill à la 10e. Mais les Lyonnais ont ensuite été beaucoup trop indisciplinés. Ils ont offert 8 pénalités aux Auvergnats en première mi-temps. Et des Clermontois qui n'ont pas manqué de les convertir avec un Laidlaw à 6 coups de pied réussis sur 6 tentés. Par deux fois, Clermont a aussi su profiter d'une touche jouée très rapidement et très habilement, inscrivant 2 essais par Penaud et Raka aux 31e et 53e minutes. Mola a inscrit un dernier essai à la ultime minute. Côté lyonnais, un deuxième essai signé Foury à la 68e a certes été inscrit, mais 3 coups de pied ont aussi été envoyés sur les poteaux. Il y a eu cette maladresse, mais aussi l'indiscipline lyonnaise qui a beaucoup compté. Mais globalement, comme hier avec Toulouse qui a vaincu La Rochelle, la logique a été respectée et c'est donc Clermont qui s'est imposé face à Lyon 33-13.
Jean Berthelot depuis Bordeaux. Clermont qui affrontera donc Toulouse en finale samedi prochain. Ce sera à suivre sur Europe 1.
Aujourd'hui ont eu lieu les 10 km de Paris, une course qui a réuni 22 000 coureurs dans les rues de la capitale.
Oui, des passionnés de course, hein, de running, comme on dit quand on court et qu'on veut être un petit peu plus dans le vent que moi. Quelques sportifs de haut niveau étaient présents, hein, notamment Martin Fourcade et une partie de l'équipe de France de biathlon, le multiple médaillé olympique qui a repris l'entraînement après une saison manquée cet hiver. Et ces 10 km, c'était une manière de prolonger l'entraînement.
C'est finalement une durée d'effort qui est assez équivalente. Je dois courir aux alentours des 34 minutes si je le fais à fond. C'est à peu près le temps d'une course de 15 km sur les skis de fond. C'est un effort qui n'a rien à voir parce que nous, déjà, on est un sport porté, donc beaucoup moins traumatisant musculairement. On est un sport aussi avec des temps de récupération. C'est un effort beaucoup plus fractionné.
Et Martin Fourcade au micro d'Axel May.
Et on va terminer avec du football, les filles, avec la suite de la Coupe du Monde.
Oui, 3 matchs hein, aujourd'hui. En début d'après-midi, une première grande surprise dans ce mondial avec la victoire de l'Italie 2-1 sur l'Australie. Dans l'autre rencontre du jour, le Brésil a facilement battu la Jamaïque 3-0 avec un triplé de l'attaquante Christiane, ancienne du PSG. Et puis en ce moment, l'Angleterre qui domine l'Écosse 2-0. Il reste encore une petite demi-heure de jeu.
C'était le journal des sports de Simon Rubin. Merci beaucoup. Coucou Simon.
Europe 1.
À suivre notre page débat du dimanche soir, à droite les Républicains qui s'enlisent dans la crise, c'est pas mieux à gauche, du côté de la France insoumise. Et enfin, le foot féminin devient-il populaire? On en parle dans un instant avec la sémiologue Mariette Darigrand et le philosophe Olivier Pouriol. À tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est tout juste 19h17, c'est l'heure de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités.
Bonsoir Mariette Darigrand.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, créatrice du blog L'Observatoire des mots. Bonsoir Olivier Pouriol.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et essayiste. Question, que se passe-t-il chez les Républicains après la démission de Laurent Wauquiez, après le départ surprise de Valérie Pécresse? Voilà que 72 maires et élus locaux de droite et du centre signent une tribune dans le JDD. Parmi eux, les maires d'Agen, c'est Christophe Béchu à l'origine du mouvement. J'ai dit d'Agen, d'Angers, pardonnez-moi. Les maires de Fontainebleau, Deauville, Niort, Orléans, Valenciennes, Amiens, Arras, Saint-Malo et même de la Baule. Ils disent soutenir Emmanuel Macron et le gouvernement et souhaitent la réussite de la France. Tout d'abord, qu'avez-vous compris dans cette démarche? Ça vous fait sourire, Mariette Darigrand. Vous avez le droit de dire rien.
Alors oui, j'ai pas compris peut-être grand-chose, mais ce qui m'est apparu quand même, c'est assez intéressant, parce que en sémiologie, vous savez, on a ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire le moment où tout le monde pense une chose, oui. Majoritaire, etc.
La guerre, c'est mal.
Voilà. Et alors, on disait beaucoup, on ne peut pas réussir si on n'a pas un parti avec soi. Puis Macron est arrivé, il a prouvé le contraire. Et du coup, c'est la nouvelle vérité. Mmh. Et maintenant, quand on a un parti avec soi, ben, on est sûr qu'on va perdre. Et donc, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'on voit comment ils sortent tous des partis, en tout cas de LR, mais on peut dire un peu la même chose ailleurs. Hein.
Mais en même temps, ils n'ont peut-être pas forcément tort, parce que quand on regarde le score de LR, c'était 8,5 aux élections, et le score du PS de mémoire, c'était 6,5 aux européennes. Ils ont peut-être raison de quitter le navire.
Oui, ben, écoutez, on verra bien la suite. Mais en tout cas, ils le font.
Olivier Pouriol.
Je pense qu'ils sentent que s'ils ne rejoignent pas La République En Marche maintenant, ils vont se faire tordre le bras au municipal. Donc ils préparent leur avenir personnel, ça c'est certain. Donc c'est plutôt une association d'intérêts particuliers et locaux qu'un mouvement collectif réel.
J'allais justement vous demander ça, si vous pensiez qu'ils étaient totalement sincères ou s'ils agissaient.
Ils sont totalement sincères, je pense qu'ils veulent être réélus.
Ah, voilà. D'accord.
C'est ça, la sincérité en politique, quand vous lisez même les réactions au départ de Wauquiez, où on salue sa dignité, etc., son sens du collectif, on croit rêver, mais personne n'est dupe. Évidemment, chacun prépare soit son rebond, soit sa traversée du désert pour revenir avant la présidentielle. Quand Wauquiez explique que finalement Sarkozy avait fait un très mauvais score aux européennes avant lui aussi de démissionner et de revenir comme président, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas renoncé à ses ambitions personnelles. Ça va être à droite un carnage.
Je vous donne totalement raison. Il y a un mot qui m'a frappé en lisant la déclaration. C'est aussi pour vous, Mariette Darigrand. Il déclare dans cette tribune, donc ses 72 maires, nous refusons de nous laisser réduire à une étiquette, à une consigne de vote, à un appareil partisan. Ça, c'est la doxa, comme vous dites. Notre parti, ce sont d'abord nos habitants. Les habitants, c'est les électeurs de leur ville.
Bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze, ouais. Et qui disait que un jour, avec cette idée de l'Europe, on verrait des gens place de la Concorde qui viendraient de tous les pays du monde pour dire qu'ils sont pas d'accord et on comprendrait pas ce qui se passe. Et là, vous avez comme conséquence des élections européennes un repli sur les intérêts locaux. Donc, c'est assez fascinant comme résultat.
Mariette Darigrand.
Oui. Alors, il y a la métaphore de la maison, ça. Incontestablement, c'est assez intéressant. Alors, les habitants, c'est probablement parce que les maires ou les ne savent pas forcément où ils habitent politiquement. Donc là, au moins, ils habitent chez les habitants. Donc ouais. Là, c'est bien. Et c'est la métaphore de la maison, si vous voulez, quand à la fois Valérie Pécresse, mais aussi, mettons, Raphaël Glucksmann, disent on va reconstruire. Alors, une fois, c'est la gauche, une fois, c'est la droite. Mais c'est la même chose. C'est l'idée de reconstruction sur des ruines. Alors, OK pour les ruines, mais il n'est pas sûr que la... que l'image, l'imagerie du solide, de la construction dans un monde qui est très fluide et qui demande d'autres formes aujourd'hui soit la bonne.
Ah bah tiens, puisque vous parlez de Valérie Pécresse, mercredi soir, elle a donc annoncé quitter les Républicains et jeudi, elle a expliqué à ses militants que, je cite, « sa démarche s'inscrivait dans l'initiative de rassemblement de la droite et du centre de Gérard Larcher ». En gros, elle part pour rassembler en tant que sémiologue, en tant que philosophe. Vous pensez quoi de cette phrase ?
Ben, disons qu'elle part pour rassembler après avoir obtenu ce qu'elle réclamait depuis 2 ans, c'était le départ de Wauquiez.
Voilà, elle s'en va.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on pense qu'elle va lui prendre sa place, en fait non, elle prend une place qui est ailleurs, donc au fond elle est assez fluide. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit
Marie-Grand.
Voilà, vous êtes présenté comme sémiologue, et c'est vrai qu'on entend parler de reconstruction, et dans les situations de catastrophe, la droite emploie plutôt le mot famille. Et on sent qu'il y a cette histoire de famille, on ne comprend pas la trahison dans la famille, comment on va faire pour garder la famille. Vous avez une interview de Brice Hortefeux aujourd'hui dans le JDD qui dit quelque chose d'assez extraordinaire en citant le dernier compagnon, enfin il parle d'Emmaüs et qui dit il est tard, restons ensemble. Enfin, c'est tellement crépusculaire qu'on en est réduit à aller chercher des références religieuses qui sont complètement inadaptées à la réalité de ce qui se passe.
Mariette, Rigaud.
Oui, c'est intéressant le paradoxe qu'il y a à partir en disant qu'on va rassembler. Et je pense que c'est parce que les hommes et les femmes politiques aujourd'hui ont le fantasme de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est, quand ils disent rassembler, ça veut dire qu'ils vont rassembler sur leur personne, ils vont incarner, ils vont faire converger vers eux. Donc c'est probablement un symptôme du narcissisme contemporain. On pourrait dire la même chose sur certains people, si vous voulez, artistes ou sportifs, etc. À un moment donné, les modèles, les rôles modèles, comme on dit, quelqu'un qui fait envie par sa démarche, va rassembler des gens de tous horizons. En politique, ça s'est fait probablement avec des grandes personnes iconiques comme De Gaulle ou comme Mitterrand à un moment donné. Macron l'a réussi en partie. Donc tout le monde a envie de rassembler comme ça. Mais pour rassembler comme ça, il faut s'isoler dans un premier temps.
Mais attendez, ils ne sont pas dupes quand même. Vous pensez que les leaders de la droite et des Républicains pensent qu'à eux seuls, ils peuvent fédérer, rassembler, avoir le charisme suffisant pour que tout le monde les suive, quand bien même les idées des uns et des autres ne seraient pas tout à fait les mêmes ?
Oui, bien sûr.
Ah bon ?
Bah, je pense que c'est, ouais. Je pense que le modèle de Macron leur fait très envie. C'est-à-dire oui. Macron, il est passé de ministre sans parti, sans jamais avoir été élu, à soudain président de la République qui s'est mis en position immédiatement au Louvre royal et qui a fait naître ce désir de rassemblement sur une personne. On a l'impression vraiment que chacun va incarner le corps du roi. On est revenu à l'époque de Louis XV ou Louis XVI.
Oui, mais Macron, il bluffe les foules. On l'a vu dans les débats, comme avant lui, Mélenchon, mais à droite, pardon, si vous en voyez un, dites-moi son nom. Mais moi, je vois personne qui a ce talent-là et cette faconde-là, si.
Non, mais ça fait envie, comme le dit Olivier, ça fait envie.
Ah, moi aussi, j'aimerais bien être milliardaire, mais ce n'est pas parce que ça fait envie qu'on y arrive.
Oui, mais
j'aimerais bien remplir Bercy en jouant de la guitare, mais ça ne viendra jamais, justement. C'est ça, chacun connaît son niveau et chacun connaît son hubris. Vous voulez dire qu'à droite, chacun pense avoir le talent pour rassembler derrière lui.
Alors, peut-être pas tout le monde, mais ceux dont on parle là, oui, bien sûr. Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, pourquoi pas, on peut imaginer qu'une femme, voilà.
Mais c'est plutôt là-dessus qu'elle joue Valérie Pécresse,
oui, voilà,
et elle a raison.
C'est-à-dire expliquer.
On parlait d'architectes ou de... Moi, faut plutôt des surfeurs pour les temps d'aujourd'hui. Il y a quand même une vague féminine, on parlera tout à l'heure de foot, je crois. Et Valérie Pécresse sent qu'elle a intérêt à s'isoler pour se retrouver sur ce courant-là, dans ce courant chaud ascendant de la femme en politique. Elle a quelque chose à jouer, elle, personnellement. Après, ceux qui se sentent pousser des ailes de Macron, il faut les regarder plutôt côté Pelletier, etc. Des petits jeunes qui doivent se raser, même s'ils n'ont pas beaucoup de poils, en pensant eux aussi qu'ils vont être présidents de la République. Comme ça, de manière magique, parce que c'est ce que Macron a fait croire.
Vous parliez de courant chaud ascendant, on va maintenant parler d'un courant froid descendant. On va parler de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 19h26, votre grand journal du soir se poursuit avec la deuxième partie de notre grand débat d'actu sur Europe 1. Avec vous ce soir, Philippe Vandel, l'écrivain essayiste Olivier Pourriol et la sémiologue Mariette Darigrand, créatrice du blog L'Observatoire des mots.
Autre séisme politique d'après les européennes, ça tangue du côté de la France insoumise en dénonçant l'absence de divergence possible au sein du mouvement, une organisation peu démocratique en interne. Charlotte Gérard, qui est l'une des figures et têtes pensantes du mouvement, quitte le navire. Est-ce que selon vous, c'est un épiphénomène ou c'est le signe de quelque chose de grave, Olivier Pourriol ?
C'est le signe que, la démocratie, c'est une question compliquée. On sait bien qu'en politique, la démocratie, c'est plutôt un effet d'annonce, parce que le fonctionnement interne, on le sait à gauche comme à droite, est plutôt fondé sur le désir et sur la violence. Tout à l'heure, on parlait de charisme, d'incarnation, de personnalité. On sait bien qu'il y a un jeu, un peu comme une série il n'y a pas longtemps qui vient de se terminer, qui s'appelait Game of Thrones. Il y a l'idée d'un jeu qui est lié à des personnalités violentes. Et donc, le pouvoir, faire croire que c'est démocratique, c'est vraiment un habillage ou c'est une tentation, mais l'efficacité réelle vient toujours de personnalités qui arrivent à tirer la nappe à elles et à provoquer des mouvements d'adhésion à leur personnalité.
Vous voulez dire qu'on croit, pardon, parce qu'on comprend bien, parce que je suis surpris parce que vous dites, vous voulez dire qu'on croit voter en connaissance de cause et qu'en fait, inconsciemment, on va là où notre inconscient nous guide vers plus de violence ou plus d'efficacité ?
Non, je ne dis pas ça. Je dis que, par exemple, dans les élections internes au parti, c'est rarement le respect des règles qui l'emporte. C'est celui qui a su jouer avec, s'arranger avec, et on le sait bien. On a eu plein d'exemples, plein de cas. Donc, c'est une attaque assez tentante et assez facile quand on a un mouvement de gauche qui se dit démocratique.
Et qui en réclame toujours plus.
Qui en réclame toujours plus, d'observer qu'à l'intérieur, le fonctionnement n'est pas du tout le cas. Et ça donne des surnoms pour Mélenchon, comme leader maximo, minimo, etc., selon les moments et selon les scores. Et voilà, donc... Quand on attaque à droite, c'est pour dire que c'est la ruine, c'est pas pour dire que c'est antidémocratique, parce que ça choque personne, l'idée des rivalités entre individus, alors qu'à gauche, soudain, on s'étonne, alors que c'est exactement le même jeu.
Mariette Darigrand, je voulais parler d'une image qui, moi, m'a frappé. Vous allez me dire si elle vous a frappé également. La France insoumise est passée de près de 20% des électeurs à l'élection présidentielle à quelque 6% aujourd'hui, 6,31%. Si j'étais cynique, je dirais la République, c'est plus eux. Et ça fait référence à une image très forte. La République, c'est moi. Est-ce que vous voyez comme moi un signe très puissant dans ce coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon lors de sa perquisition.
Ah oui, incontestablement, ça a fait basculer dans quelque chose. Comme si, disons, la vraie nature de Jean-Luc Mélenchon apparaissait. Parce qu'il avait beaucoup de charisme professoral auprès des jeunes. Il a de la culture, il montrait des choses, il montrait une filiation. Et tout d'un coup, le voilà comme un homme... presque paranoïaque. Enfin, il y avait quelque chose d'assez pathologique dans sa manière de refuser au moment des perquisitions. Et au lieu, il s'est posé en victime comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça n'a pas marché. C'est intéressant pourquoi ça n'a pas marché. C'est probablement parce qu'il a dit « La République, c'est moi ». Et ça, c'est une parole comme les gens qui se prennent pour Napoléon, si vous voulez. C'est quelque chose de pathologique, d'une part. Et puis, il a eu ce geste, alors qui m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup intéressé. Il a eu cette parole « Ne me touchez pas ». Ouais. Bon, c'est la parole du Christ, hein, ouais. Quand il ressuscite.
Ou d'un roi.
Et du coup, du roi qui est élu de droit divin. Et donc là, il a montré précisément qu'il n'était pas parmi nous. Il était dans les limbes, et pour moi, là, vraiment, à ce moment-là, il est parti ailleurs et il a été complètement révélé dans sa vraie nature. Beaucoup de politiques se prennent pour Jésus, hein. Lève-toi et marche, et
oui.
Bon, ça arrive toujours à un moment donné. Ça. Oui. Mais lui, c'était montré d'une façon qui était liée à la mort du Christ. Et là, vous parliez des doubles corps du roi, bah oui. Le problème, c'est que le roi, quand il a un corps qui n'est pas comme le nôtre, c'est qu'il est mort.
Alors vous disiez que ça a touché les jeunes, et justement, cette phrase passe en boucle dans une émission très regardée par les jeunes qui s'intéressent à la politique. Ça fait partie du pré-générique de Quotidien sur TMC. La République, c'est moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème Mélenchon avec la France insoumise, Olivier Pourriol?
Il y a un problème. Non, c'est un problème intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on aime chez Mélenchon, c'est sa capacité à articuler des colères. Et on reconnaît en lui quelque chose comme un écho de la grande rhétorique de la Troisième République. Et avec ce côté un peu suranné, avec ces longues séquences qui ont l'air d'être traduites d'une version latine. Et en même temps, c'est précisément ce qui fait qu'on l'écoute qui fait qu'il est daté. Donc le problème va être résolu assez vite.
Oui, mais il était daté, il faisait 20%. Maintenant, il est daté, il fait 6,31.
Oui, parce que le monde...
Qu'est-ce qui a changé?
Ben, ma camarade en face de moi qui fait un observatoire des mots, vous le direz probablement mieux que moi, c'est que le sens des mots a changé. Il suffit plus de faire une phrase bien tournée pour convaincre quelqu'un, parce que la souffrance passe pas juste par l'expression de la souffrance. Il faut à un moment essayer de la résoudre. Or, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, depuis sa défaite face à Macron, est simplement dans un nouveau creux, parce qu'il attend son grand moment. Son grand moment, c'est tous les 5 ans où il fait des grands shows et il essaye d'emporter tout le monde et de recréer une vague. Et là, il est juste dans l'attente de la vague.
Alors moi, je ne vais pas faire une grande phrase. Je vais dire, restez avec nous. On va parler filles, on va parler foot.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
19h33, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités. Mariette Darré-Grand, sémiologue, créatrice du blog L'Observatoire des mots, et Olivier Pourriol, écrivain et essayiste.
Et si les joueuses bleues prenaient le dessus sur les joueurs bleus? On nous disait que le foot féminin n'intéressait personne. La preuve que non, 10 millions de téléspectateurs ont regardé vendredi le match d'ouverture de l'équipe de France de foot contre la Corée du Sud. Presque 10 millions de téléspectateurs sur TF1, presque 11 millions si on ajoute la diff sur Canal+. C'était moitié moins hier soir pour le match des garçons champions du monde contre la Turquie. Seulement 5 millions, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous fait sourire, Mariette Darré-Grand? Ça vous fait plaisir? Ou est-ce que je me trompe?
Ça me fait plaisir parce que bon, il y a une dimension, disons, un peu féministe. Voilà, les femmes. Et c'est nouveau. Alors, ça fait la même chose, par exemple, dans d'autres sports, dans le tennis féminin. Avant, le tennis féminin n'intéressait personne.
Ouais.
Et puis, tout d'un coup, les gens se sont aperçus que finalement, la stratégie, la tactique, etc., les matchs, mais à la grande époque de Navratilova, Krejcová, ça ne date pas d'aujourd'hui, les retenaient beaucoup plus que. Bon. Et donc, c'est des moments. Et moi, je trouve ça bien. Comme j'attends le rugby, parce que je suis du Sud-Ouest, moi, j'attends les filles au rugby.
Olivier Pourriol?
C'est beau d'abord que les objectifs étaient atteints. Tout le monde est très content. Les stades sont remplis. Vous allez dans des villes Le Havre ou à Grenoble aussi, qui n'auraient jamais eu la chance de voir une Coupe du Monde masculine, hein, qui soudain ont droit à un match de Coupe du Monde à des tarifs imbattables en plus. C'est-à-dire, parce que là, on parle des spectateurs, mais il faut parler des stades. Les stades sont quand même remplis.
Il faut le dire, il faut être totalement honnête, le prix des places a vraiment été baissé par rapport au prix des garçons. C'était 9,50 € au Parc des Princes, alors que normalement, c'est parfois 10 fois plus.
Bien sûr, après, dans les catégories supérieures, c'est plus cher, mais c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour voir des matchs de foot féminin. Alors qu'on parlait de tennis, la demi-finale homme a chassé la finale femme qui se retrouvait sur un court annexe. Donc, et cette,
tout était sur le central.
Non, pas du tout, justement. Amélie Mauresmo était vraiment très contente.
Oui, bien sûr, elle a eu raison.
Ils ont mis à l'écart les filles pour que les garçons puissent jouer pour les demi-finales.
Oui, il me semblait bien. Donc là, on assiste à quelque chose. Ça ressemble quand même, parce que si vous avez suivi de près, les filles ont été chassées de Clairefontaine de leur chambre pour laisser la place aux garçons, alors qu'elles étaient en Coupe du Monde, alors qu'eux étaient simplement en qualification. D'ailleurs, ça les a pas aidés.
Non.
Ils ont perdu.
Ils ont perdu 2-0 hier contre la Turquie.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que du jour au lendemain, on a le même sport incarné par deux sexes apparemment opposés. Et d'un côté, vous avez un spectacle qui peut devenir vraiment familial, puisque c'est ce qui se passe dans les stades. On vient en famille. Et d'ailleurs, moi, j'ai prévu d'aller voir, d'emmener mes garçons voir des matchs de foot féminin, alors que je les ai jamais emmenés voir un match de foot masculin.
C'est pas vrai. Pourquoi ce choix ?
Bah parce que j'ai envie de leur montrer ce que c'est le monde de demain, puisque ça commence aujourd'hui.
Vous avez regardé le match à la télé ? Le match des filles ?
Non, parce que j'étais au théâtre, mais j'ai regardé après.
Et vous, Mariette Darry-Grand ?
je dois avouer que non, je n'ai pas regardé. Mais par rapport à...
Moi, j'ai regardé les deux. Je le dis d'un mot avant de donner la parole. Ça jouait mieux chez les filles que chez les garçons. Mais je ne suis pas le seul à dire ça. Ouais, mais dites pas, mais oui, vous n'avez pas vu le match.
Dites ça parce qu'elles ont gagné.
Oui, évidemment. Non, mais il y a une fluidité, il y a une beauté. Et pour vous donner raison sur le fait bon enfant, ça m'a vraiment frappé. Dans les tribunes, il n'y avait pas de sifflet contre l'équipe adverse, il n'y avait pas de hooligan, c'était en famille et c'était vraiment très très bon enfant. Mariette Darry-Grand.
Oui, non, je repensais à propos d'Amélie Mauresmo. Alors là, pour moi, il y a l'injustice, alors vraiment mais historique, hein, c'est lorsqu'elle a gagné Wimbledon et qu'elle n'a pas fait la une de l'équipe le lendemain, en 2006. Pourquoi ? Parce que Zidane avait fait son coup de boule. Et qu'on a eu ça en une de l'équipe.
Vous savez quoi ? Je connais un type qui est tellement tordu que le coup de boule de Zidane, qui est peut-être ce qu'il y a de pire, il en a fait un livre et ça s'appelle « Éloge du mauvais geste ». Et cette personne est en face de vous, voilà. C'est Olivier Pourriol.
Ça bouffe.
C'est vrai.
Non ?
C'est vrai. Donc, ce n'était pas un geste sportif. Donc, on peut pardonner à l'équipe ce jour-là d'avoir pour une fois cédé la place à un événement extra-sportif. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu d'inélégance sur les matchs de Coupe du Monde féminin. Alors, est-ce que l'égalité, ce sera le jour où on aura des joueuses aussi violentes et qui feront des gestes aussi mauvais que les garçons ? J'espère que non.
Vous savez pas ce que font les filles ? Vous n'avez pas regardé le match ? Les filles, contrairement aux hommes, ne font pas de cinéma. Elles ne se roulent pas par terre en faisant croire qu'elles ont mal si elles n'ont pas été touchées.
Oui, alors écoutez, oui, ça c'est très bien. Ce qu'il ne faudrait pas, d'une façon générale, c'est que les femmes soient assignées à résidence dans la modernité. C'est-à-dire que ce soit toujours... C'est le CAC 40 des mœurs, les femmes.
Ouais.
C'est tout, quand on n'a plus de modernité, eh ben, on prend un truc... on fait arriver les femmes dans quelque chose. Donc, non, il faut regarder, je trouve, cette histoire de foot féminin pour ce que c'est. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont faire un peu avancer aussi ce sport qui peut progresser. Le tennis a progressé grâce aux femmes qui jouaient de manière beaucoup plus tactique à un moment donné. Hein.
Oui, parce que c'est vrai que si on regarde les histoires de différence de puissance et tout, après on peut rentrer dans des débats infinis. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les filles se sont retrouvées comme étant exemplaires par rapport aux garçons et en étant proposées comme exemple. Donc je trouve ça très intéressant parce que c'est comme, dans une dictature, c'est quoi ? C'est quand il y a un pouvoir sans contre-pouvoir. Et là, soudain, l'espèce d'hégémonie masculine dans un sport comme le foot va être contrebalancée et il va y avoir des contre-modèles et il va y avoir une forme de commentaire par les performances respectives des unes et des autres.
Je vais conclure en donnant trois chiffres qui risquent de vous réjouir. C'est le détail des audiences de TF1 suivant les cibles. 44% de part d'audience pour le match, mais surtout 47% de part d'audience sur les femmes. Et c'est vraiment pas un truc de gonzesse comme je l'ai entendu malheureusement ici ou là. La preuve, 57% de part d'audience, le match féminin sur les hommes de moins de 50 ans. Et alors l'avenir du foot féminin est encore plus rose puisque sur les enfants de 4 à 14 ans, la part d'audience de ce match est de 65%, ce qui est quand même considérable pour emmener vos garçons voir des matchs. Olivier Pourriol, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes écrivain essayiste. Merci Mariette Darry-Grand, sémiologue. Et on peut vous retrouver sur votre blog. Il s'appelle l'Observatoire des mots.
Europe 1.
Dans un instant, on va partir à Roland-Garros pour revenir bien sûr sur la victoire de Nadal avec Corinne Boulou, Christophe Lamarre et Cédric Pioline. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Avec vous, Philippe Landel.
Comme tous les jours, 19h41, c'est l'heure, c'est la dernière fois en 2019, c'est l'heure de service Pioline. On va prendre la direction de la Porte d'Auteuil, où on retrouve Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir Philippe.
Alors je vais pas tarder, je vais pas monopoliser le micro. Vous allez commencer bien sûr avec la victoire de Rafael Nadal.
Oui, victoire de Rafael Nadal. On va pas dire victoire facile, même si sur le papier elle semble quand même impressionnante. 4 manches, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Un petit peu plus de 3 heures pour un Rafael Nadal, Cédric, qui au passage quand même empoche son 12e titre à Roland-Garros. C'est juste...
Irréel,
hein, c'est ça.
Irréel, je crois que c'est le mot. 12 titres ici, c'est un exploit unique dans l'histoire du jeu, puisque et puis il monte, on en discutait juste avant, à 18 grands chelems à deux longueurs donc de Roger Federer. C'est assez impressionnant. Et puis finalement, Rafael Nadal qui n'a pas été vraiment une nouvelle fois, j'ai envie de dire, challengé pendant cette quinzaine, même si il a quand même perdu 2-7 en route. Un aujourd'hui en finale contre Dominic Thiem et un contre David Goffin.
Et on va justement peut-être, Philippe, écouter.
Ah bah oui,
Rafael,
j'allais justement
Nadal,
vous le dire. Allez-y, c'était juste
un petit
après.
Sous le pied, ça tombe bien, on est sur de la terre battue.
Vous avez bien fait. Juste après son 12e sacre, Nadal.
C'est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer. C'est vraiment incroyable. C'est un moment très, très spécial pour moi. Ça vous dit merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde qui fait de ce tournoi le meilleur tournoi du monde. Merci beaucoup, j'espère de retrouver la prochaine. Merci beaucoup.
Il dit ça à tous les tournois, que c'est le meilleur tournoi du monde, ou vraiment il le pense de Roland-Garros?
Il y a Cédric qui sourit.
Non, je crois que vraiment ici c'est spécial, c'est ce qui a fait c'est un peu sa marque de fabrique. Jouer ici sur ce cours central, Philippe Châtrier, Porte d'Auteuil, c'est là où il s'est... révélé, je dirais, au monde du tennis. Et puis petit à petit, d'ailleurs, il a dépassé largement le monde du tennis pour devenir une icône, hein, un peu comme Federer. Donc oui, il le pense sincèrement. Après, c'est vrai que peut-être ça, d'autres endroits, on va dire que ça fait partie d'un discours un petit peu préétabli, préfabriqué.
Oui, moi je suis
Cédric, c'est vrai que...
Pardonnez-moi, donc je veux dire que j'étais déjà allé voir des concerts, des groupes, et d'une ville à l'autre, c'était toujours leur ville préférée. Donc je me suis dit, finalement, ils ne le pensent pas. Mais quand même,
Nadal, il faut dire que
Nadal et la Terre battue, c'est quand même une grande histoire d'amour. Il ne trouvera pas ça à Flushing Meadows ou à Wimbledon, la Terre battue.
Donc pour le évident, coup... Et c'est là où je voulais...
Allez-y.
Pardon, Philippe. C'est évident, et d'ailleurs, Cédric, il est évident que Rafael Nadal a fait de Roland-Garros. Alors c'est vrai que c'est un peu cliché, son jardin, mais il a une relation particulière avec ce tournoi. D'abord, parce qu'il y fête son anniversaire,
oui.
C'est quand même pas neutre. Mais c'est vrai qu'il a un véritable amour pour ce tournoi. On ne gagne pas 12 fois Roland-Garros par hasard.
Non, c'est un grand champion. C'est un des, puisqu'il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres qui sont en activité, mais il est un champion parmi les champions. C'est assez exceptionnel d'arriver à trouver à nouveau chaque année la motivation pour remettre le titre en jeu, être à nouveau motivé. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve cette énergie. On le voit sur le court, qui même lorsqu'il mène largement, il rate une balle, il est agacé, il s'en veut, il n'accepte pas. Donc c'est presque inhumain, moi j'ai envie de dire. Lorsqu'on sait par exemple que à chaque fois qu'il a fait un match rapide, il va jouer 2 heures derrière, donc c'est incroyable.
J'ai une question pour vous. Il y a évidemment la volonté, mais ensuite il faut que la musculature, le physique suivent. Il a quel âge et vous le voyez jouer à ce niveau pendant combien de temps encore?
Ben il a
33 ans.
Il a eu 33 ans, donc ce n'est plus un jeune joueur. Il faut dire que ça fait un moment maintenant, et je pourrais pas d'ailleurs savoir depuis combien de temps exactement, mais qu'il ne fait pas une saison complète parce que à chaque fois il a quelque chose qui souffre dans son organisme, et c'est souvent chez lui les genoux. Mais comme sur terre battue, il a une supériorité par rapport au reste du circuit. Ça ne se voit pas, il finit toujours dans les 2-3 premiers. Et combien de temps? Alors ça, c'est un mystère quand on voit que Federer, lui, va fêter ses 38 ans au mois d'août et il est toujours compétitif. Je dirais qu'il a bien 2-3 saisons dans les jambes pour au plus haut niveau, en tout cas.
Vous savez, Philippe, c'est une question que l'on a posée à Guy Forget, le directeur du tournoi. On lui a dit, bon, effectivement, il y a quand même un côté un peu un jour sans fin avec Rafael Nadal, à Roland-Garros, j'entends. Et on lui a dit... Et c'est la même question que vous avez posée à Cédric, mais combien de temps peut-il jouer? Et surtout, est-ce qu'il peut encore aller chercher un grand chelem à Roland-Garros? Écoutez la réponse de Guy Forget, elle est claire.
Je dirais que s'il est épargné par les blessures, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte hein, lorsqu'on dépasse les 30 ans, je crois qu'il sera le favori encore l'année prochaine. Et peut-être qu'un Dominic Thiem ou un Novak Djokovic, en pleine possession de ses moyens, vont pouvoir le faire trébucher. Il a une telle maîtrise de cette surface, une telle capacité à jouer le bon coup au bon moment, à donner très peu de points, à glisser toujours en coupant les trajectoires. Quand on le voit évoluer comme ça, franchement, une nouvelle fois, c'est prodigieux ce qu'il arrive à faire. Donc, on ne va pas dire 15 parce que c'est tellement ridicule, mais pourquoi pas 13 ?
Impressionnant.
Alors, pourquoi pas 13 ? Ouais, c'est impressionnant, hein ?
Ouais. Alors, Nadal, les garçons, c'est fait. Journée marquée également par la victoire en double de la Française Kristina Mladenovic avec la Hongroise Timea Babos. Mladenovic qui va devenir demain la nouvelle numéro 1 mondiale en double.
Oui, effectivement, et c'est pas quelque chose d'anodin parce qu'elle en est à son troisième grand chelem. Alors, elle avait déjà gagné Roland-Garros en 2016, si je ne m'abuse, avec Caroline Garcia. Elle a déjà gagné un autre tournoi du grand chelem, et là, il y a Cédric qui me regarde avec ses grands yeux. Si jamais je dis une erreur, je vous raconte pas le mauvais quart d'heure que je vais passer derrière.
On s'en fout, c'est le tournoi est fini.
En 2018, oui, c'est vrai, c'est pas très grave. Ouais. Je pourrais rentrer en béquille. Mais c'est vrai qu'elle va surtout, Cédric, il y a quelque chose de... Alors, c'est plus que du symbolique. Elle va être numéro un mondial. Est-ce qu'on peut dire que si on met de côté son tournoi en simple, est-ce que cette victoire en double, ça sauve, entre guillemets, sa quinzaine ?
Oui, ça, d'une certaine manière.
Ça adoucit.
D'une certaine manière, je pense qu'elle se considère avant tout comme une joueuse de simple. Maintenant,
elle l'a dit, c'est vrai.
C'est un accomplissement hein, de gagner un grand chelem et puis surtout d'être en haut de la montagne avec cette place de numéro un. Donc elle pourra se dire, voilà, c'est fait, c'est inscrit dans le marbre, ça sera sur ma carte de visite, dans mon palmarès. Donc voilà, mais je crois qu'il faut qu'elle qu'elle s'en serve en tout cas pour le simple. Et c'est arrivé souvent hein, d'ailleurs que des joueurs et des joueuses se servent du double et des bonnes de cette discipline pour améliorer leur jeu de simple.
Et notamment, on dit souvent d'ailleurs que le double permet d'améliorer son jeu à la volée. Alors elle va quand même être numéro un mondial en double demain lorsque la WTA bien sûr publiera son classement, puisque vous savez que l'ATP comme la WTA publie leur classement hebdomadaire le lundi. Mmh. Et elle sera donc numéro un mondial. Et on lui a posé la question à Kristina Mladenovic, être numéro un mondial en double, qu'est-ce que cela vous fait, Kristina Mladenovic?
C'est exceptionnel, enfin d'autant plus que, enfin voilà, quand on est athlète et à un moment donné quand on vit de sa passion, on n'a qu'une seule envie, c'est se surpasser, faire partager des émotions fortes avec son équipe, avec le public, avec les fans, et entre guillemets aussi écrire l'histoire, parce que c'est ce qui reste. Et quand on est à Roland et que je sais que quelque part dans les archives ça restera que si je me trompe pas, je dois être la deuxième française de l'histoire à être numéro une mondiale en double, et en plus ça se concrétise au bout d'un titre de Grand Chelem à Roland-Garros, c'est juste fou, c'est juste dingue de se dire que voilà, une fois que je raccrocherai les raquettes, il y aura ça de plus à mon palmarès. C'est très prestigieux, et quand j'ai reçu le trophée hier de numéro 1 mondial et voir qui a été numéro 1 mondial avant moi, c'est oui, ça donne la chair de poule de voir son nom associé à toutes ces championnes.
Kristina Mladenovic au micro Europe 1. Juste une petite question aux spécialistes que vous êtes, comment se fait-il qu'on peut être numéro 1 mondial en double individuellement? Pourquoi c'est pas une paire? Pourquoi c'est pas une doublette qui est récompensée?
Et c'est Cédric qui va répondre.
Alors tout simplement parce que en fait les points qui sont attribués à chaque tournoi, donc sont attribués, par exemple là il y a 2000 points pour chaque joueuse qui gagne, donc à l'équipe, donc ça fait 4000 en fait.
Ouais.
Et en fait, si par exemple Kristina la semaine prochaine joue avec une autre joueuse,
d'accord,
elle va continuer à améliorer son total individuel, et c'est pour ça que il arrive, il y a eu les frères Bryan par exemple qui à un moment ont été n'avaient pas le même classement parce qu'un des deux a joué un tournoi de plus et a fait quelques points supplémentaires.
D'accord, contrairement à la Formule 1, contrairement à la Formule 1, on a le droit de changer d'écurie en cours de saison. Et pour finir, les garçons, qu'est-ce qu'on doit retenir, que retenez-vous de cette édition, quelles sont les images fortes de ce tournoi, et plus généralement, est-ce que vous estimez que le cru 2019 de Roland Garros est un bon cru?
Alors, je me jette à l'eau le premier. Merci pour la bouée, Cédric, c'est sympa. Alors, l'image forte pour moi, c'est quand même, et c'est ce qui fait aussi sans doute que ce tournoi est réussi, c'est la venue de Roger Federer. Ouais. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Son niveau de jeu, je ne m'attendais pas à ce qu'il pratique un tel niveau de tennis, même si on peut redire sur les adversaires qui lui ont été opposés, encore que Stan Wawrinka en quart, c'était quand même quelque chose. Et je retiendrai aussi cette image d'ailleurs de Roger Federer battu en demi-finale par Rafael Nadal, quittant le central, et cette standing ovation et les Roger qui descendaient des tribunes. Voilà, ça je trouve que c'est une image forte, et je trouve que globalement c'est un tournoi qui a été réussi. Et d'autant plus réussi, je trouve, que du côté féminin, il y a cette jeune Ashleigh Barty, 23 ans, qui a remporté le simple dames en pratiquant un tennis que j'ai trouvé franchement merveilleux, très beau à voir, fait en variation de rythme, les amortis, les montées au filet. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez séduisant. Cédric, vous, quelle image garderez-vous de ce Roland Garros, et est-ce que pour vous c'est une édition réussie?
Bah écoutez, vous avez bien fait de vous jeter en premier, parce que c'est à peu près à peu de choses près la même chose. C'est vrai que Federer, ça a été un moment fort, ça a créé du frisson, je dirais, dans les gradins, dans les allées, de voir son niveau de jeu, de le revoir à Paris, de voir qu'à pratiquement 38 ans, il est en demi-finale ici. Il n'a pas fermé la porte à ce que ça soit qu'il revienne, tout simplement. Donc c'est évidemment chaque année qui passe est un peu plus difficile, parce que le jeu sur terre battue est exigeant. Et puis chez les filles, je dirais que bon, il y a eu un tableau très ouvert, comme on l'avait dit au tout début du tournoi.
Vous l'aviez dit au début d'ailleurs, voilà. Bien malin celui qui pourra donner le nom du vainqueur.
Et pour moi, je pense que c'est peut-être, oui, alors Barty qui a gagné, forcément ça parle, mais la jeune américaine Anisimova, qui voilà, 17 ans et quelques. Franchement, elle a tout pour devenir une future grande, et je pense qu'il y avait de la place déjà cette année pour qu'elle passe. Elle a été sûrement un peu rattrapée par l'enjeu, la pression, d'un coup peut-être de réaliser ce qui était en train de se passer, mais on devrait la revoir et ici à Paris et dans bien bien d'autres endroits dans le monde, parce que je pense qu'elle va jouer très très bien pendant de nombreuses années, cette jeune fille.
Une image, voilà.
D'autant qu'il y a
une image que, oui, vous devriez retenir, que vous allez retenir tous les deux, en dehors du match, peut-être une toute petite séquence, un clin d'œil ou quelque chose comme ça, qui vous a vraiment séduit.
Centre de presse, c'est là où se passent les interviews avec les joueurs à l'issue des matchs. Et en ce qui me concerne, je sors donc du centre de presse, et là, c'est Cannes. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout.
Ouais.
Et je me dis, mais évidemment, un peu bravache, je dis, mais vous attendez qui? Il dit Roger. Voilà, c'est le monde, mais une foule, la même d'ailleurs, presque la même pour Rafael Nadal, il faut le préciser. Mais voilà, c'est cette image-là, c'est l'image moi qui me vient quand je sors de la première interview de Roger après son premier match, cette foule devant le centre de presse, mais on ne pouvait pas faire un centimètre, c'était pas possible.
Magnifique.
C'était pas possible. Et vu en plus mon gabarit de déménageur, je vous dis que c'était compliqué pour rejoindre la tribune de presse.
Mais non, vous faufilez, au contraire.
Oui, ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas mal aussi, je dribble. Oui, j'ai un centre de gravité très bas. Cédric, vous, ici, il y a une image que vous retirez
Une image, je dirais que c'est quand même. Alors, c'est peut-être pas forcément physique, c'est peut-être justement la transformation du stade, ce nouvel écrin, ce court central qui n'est pas fini, le toit qui va être posé pour l'édition de l'année prochaine, est vraiment un tournoi qui monte en grade et qui est quelque part aussi en compétition. On parle toujours de la compétition sur le court entre les joueurs et les joueuses, mais les tournois du Grand Chelem qui sont eux-mêmes en compétition les uns avec les autres. Et Roland Garros qui est dans une magnifique évolution. Voilà, la fédération et la direction du tournoi font quand même un gros travail de fond, et c'est bien de le souligner.
Voilà, et puis moi, Mathieu notamment, hein, qui est magnifique.
Et puis moi,
Philippe,
personnellement,
c'est quoi votre image, vous?
Alors je vais vous le dire, moi je garde l'image de la balle de match de la finale racontée en direct tout à l'heure dans le Journal des Sports par Corinne Boulou. On aurait voulu faire exprès, on n'y serait jamais arrivé, on aurait vu ça dans un film, on aurait dit mais non, c'est pas possible, ça peut pas tomber, il peut pas servir pour le match pendant le Journal des Sports sur notre premier titre. Eh bien si, il l'a fait. Merci à Nadal, merci à vous tous les deux, merci à Cédric, merci à Christophe, merci à tout le service des sports, également à Corinne Boulou, de nous avoir fait vivre pendant 2 semaines ce tournoi sur Europe 1, la radio officielle de Roland Garros.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe 1, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut Philippe.
J'imagine que vous allez parler du foot hier.
Bien
alors,
sûr.
Toi dire, vous m'avez dit, tu vas voir, parce qu'on se tutoie
c'est
dans
vrai,
les couloirs.
Dans la vie.
Et j'ai dit, mais les Français, ça va être tranquillou. Et ils m'ont tous dit, toute votre équipe m'a dit, mais non,
tu vas voir, ils peuvent vraiment se faire taper par les Turcs. Qu'est-ce qui s'est passé ? 0-2, c'est vous qui aviez raison.
Mais à ce point-là, Philippe, à ce point-là, il aurait pu y avoir 5-0. On va en parler dans notre émission Europe 1 Sport avec nos experts dans quelques instants. On reviendra aussi sur Roland-Garros et cette magnifique victoire, la 12e. De Nadal. Oui,
on va vous écouter. Merci beaucoup Lionel. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Vous serez là, Marlène.
Et je serai là. Salut Philippe.
Bonne semaine à tous et toutes et bonne soirée sur Europe 1.